Bonjour à tous, bienvenue à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2, revue de presse interactive. Alexandre, avec vous pour cette revue de presse, nous commençons avec Étienne Chouard. Étienne Chouard, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur notre antenne. Étienne Chouard, vous allez intervenir durant cette antenne pour nous expliquer ou nous réexpliquer ce qu'on appelle des fois le mini-traité européen ou le traité de Lisbonne. Mais je vais vous demander avant cela de vous représenter aux auditeurs.
Bien, je suis un citoyen comme les autres qui était emporté par la réflexion politique au moment du référendum. La campagne référendaire de 2005, on a été très nombreux à découvrir à l'occasion de cette campagne et de la lecture de ce texte l'incroyable série d'abus de pouvoir dans laquelle on nous entraînait sans rien nous dire, en nous disant même le contraire, en prétendant que la construction européenne était conforme aux plus hauts standards de la démocratie. Et j'étais complètement rassuré par ce discours. Je faisais pas de politique et je faisais confiance à nos représentants, comme tout le monde. Et puis à l'occasion de la lecture de ce texte et de la prise d'information sur le net et dans d'autres médias que les médias, le mainstream comme on dit, j'ai découvert que depuis 50 ans, les exécutifs s'autonomisent, c'est-à-dire s'affranchissent de tout contrôle et vident la République de son sens, vident notre vote de son sens, dépouillent nos propres élus de leur pouvoir et font de notre vote une coquille vide. Et c'est pas les mots en l'air, c'est-à-dire que c'est en lisant les institutions, en les lisant et en en tirant les conséquences rigoureuses qu'on s'aperçoit de ça. Et le discours en face des partisans du traité est assez vide en fait, est complètement constitué d'incantations, de protestations, d'injures souvent, et en fait sur le fond quand on discute du texte il n'y a plus personne. Alors bon, moi je me suis finalement beaucoup beaucoup impliqué depuis 2-3 ans, je fais partie de cette pensée quoi, je pense plus qu'à ça moi, tout ce qui dépasse tout le temps libre que j'ai en dehors de mon métier, je le consacre à ça, je lis énormément, et plus je lis, plus je découvre ce qui est, plus je me dis que j'étais fou de ne pas m'en occuper avant, quoi. Et en fait, ce qui est désespérant, c'est qu'on n'est pas nombreux à lire et à s'informer autrement que par le journal télévisé.
Étienne Chouard, quel est votre métier actuellement ?
Moi, je suis prof dans un lycée, je suis prof en BTS. Je suis prof de méthode et d'informatique, donc d'autres choses. J'étais prof de droit et d'économie pendant 10 ans, au début, quand j'étais jeune prof.
C'est assez paradoxal que vous vous intéressiez que maintenant, que depuis 3 ans au sujet.
Enfin, paradoxal, ou c'est surtout un hasard, quoi. C'est un hasard de la campagne référendaire et de la prise de conscience. Mais bon, je ne suis pas le seul, il y a plein d'autres personnes qui ont pris conscience. Ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai eu une espèce de chance d'avoir été médiatisé. Voilà, on a fait une espèce d'icône de ce qui m'est arrivé. J'ai écrit un texte qui a beaucoup circulé.
Alors, vous avez été médiatisé, on le rappelle, parce que votre blog, votre site internet, Étienne Chouard, a été l'un des plus visités, si ce n'est le plus, pendant la campagne référendaire.
C'était pas un blog à l'époque, c'était pas interactif, c'était un site web tout simple, une vitrine sur laquelle je mettais mes TP informatiques pour mes élèves et puis des histoires de parapente. Et puis j'ai ajouté une partie politique toute simple, c'était une page, enfin toute simple, j'avais passé des dizaines, des centaines d'heures à préparer un document de synthèse sur le traité, après l'avoir lu, dépiauté, décortiqué, lu les analyses des différents points de vue à gauche, à droite. J'en ai fait une synthèse d'une dizaine de pages plus une dizaine de pages de notes. Et ce texte, et en demandant aux gens de me dire ce qu'ils en pensaient, moi je disais, ça me fait vachement peur, quoi, hein, ce truc-là, c'est effrayant, mais je me trompe peut-être, c'est-à-dire que, voilà, dites-moi si je me trompe, et puis je corrigerai si j'ai fait des erreurs, et petit à petit, ce texte va devenir peut-être une synthèse fiable de ce qu'on peut penser de l'ensemble. Et les gens se sont appropriés ce texte, ils l'ont trouvé clair, ils ont rajouté, alors il y a plein de gens qui m'ont écrit pour en rajouter, pour corriger, il n'y avait pas d'erreurs graves, il y avait quelques erreurs de détails que j'ai corrigées dans les jours qui ont suivi, très vite. Et puis ensuite, je l'ai étayé, j'ai renforcé les notes, j'ai rajouté des tas d'arguments supplémentaires et de points de vue complémentaires qui rendaient le texte plus fort. Et vous pouvez le lire aujourd'hui parce qu'il reste totalement d'actualité puisque le traité de Lisbonne est le même que le TCE, on pourra en reparler. Et finalement, effectivement, j'ai reçu des centaines de mails tous les jours. Quand je rentrais du boulot, je trouvais 300-400 mails enthousiastes pour la plupart, fervents. Il y a beaucoup de ferveur dans ces mails. En 2 mois, j'en ai reçu 12 000, ce qui est inhumain, en fait. Et sur le site, il y avait 1 000, 2 000, 3 000, puis 10 000, puis 30 000 visites par jour. Les derniers mois, il y avait 30 ou 40 000 visites par jour. Donc, c'était très, très actif. Et en fait, c'est... Voilà, donc ça a été comme une opportunité pour moi pour faire un peu porte-parole, quoi. Hein. Alors c'est une situation un peu exceptionnelle qui fait qu'après ça, on est poussé par ce truc-là, on est tiré, enfin on est emporté par ça et ça crée une espèce d'exigence. Alors bon, on se met à bosser encore plus parce que quand vous savez qu'il y a 30 000 personnes qui vont vous lire, vous faites gaffe à tout, quoi. Hein. Il faut pas se tromper, il faut tout vérifier.
Alors, Étienne Chouard...
Depuis, je continue à me bagarrer. Et ce qui est désespérant, c'est que les autres ne se bagarrent pas. Les gens sont retournés après le référendum dans une espèce de passivité qui est liée sûrement au fait que les mauvais joueurs qui ont perdu le référendum, donc ils voulaient qu'on dise oui, et on a dit non. Ils nous ont traités de xénophobes, de racistes... de toutes sortes d'injures dégradantes. Et mauvais joueurs, ils n'ont pas été que mauvais joueurs, ils ont aussi été tricheurs, puisque maintenant ils nous violent, quoi, hein, ils nous l'imposent de force par quelques arguties, quelques arguments merdiques. Il paraît qu'ils ont changé quelque chose, ils ont changé 3 bricoles, ils changent 3 bricoles et ils nous violent, quoi, hein. Le viol est programmé pour le 4 février.
Alors voilà, c'est de ça dont nous allons parler, effectivement, le 4 février, une opposition... qui aurait pu être le Parti Socialiste, mais en même temps, par rapport à sa prise de position, justement, lors du référendum, elle suit son idée, hein, générale, à part quelques-uns. On peut penser à Mélenchon, on peut penser à Laurent Fabius aussi.
Oui, Filoche.
Oui, il y a des gens qui restent opposés à ce texte.
Parce que c'est
toujours la même chose. C'est ce que vous allez nous expliquer pendant cette antenne. C'est exactement la même chose. En mettant en avant quelques points précis qui vous paraissent importants et qui étaient déjà présents dans le précédent texte. Et je précise à nos auditeurs qu'ils peuvent, lorsqu'ils vont vous entendre commenter ces points qui vous paraissent importants, Étienne Chouard, intervenir pour vous contredire ou poser des questions. Je donne le numéro de téléphone tout de suite, c'est le 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20. Et Étienne Chouard, comme nous en avions convenu, donc, quels sont les points identiques et qui vous paraissent les plus importants dans ce nouveau ancien mini-traité ?
Alors, les reproches qu'on peut faire au texte, aussi bien au TCE, donc traité constitutionnel européen, qu'on a refusé en 2005, ou le traité de Lisbonne qu'on va nous imposer par viol parlementaire le 4 février, et les jours qui viennent, les jours qui suivent, les reproches fondamentaux qu'on peut lui faire sont les mêmes, puisque le texte est le même. Si vous ne croyez pas, si vous trouvez que vous avez besoin de sources supplémentaires pour vérifier que c'est le même, vous pouvez lire l'article de Valéry Giscard d'Estaing, le 26 octobre 2007. Dans Le Monde, il a écrit un article étonnant qui a plus de force sous sa plume que sous la mienne, puisqu'il explique en long, en large, en travers que c'est le même, qu'il est plus compliqué pour éviter le référendum, mais que c'est le même que tout ce à quoi il tenait, et il est particulièrement compétent, c'était son bébé, hein, le TCE. Et tout ce à quoi il tenait y est encore, et rien que cet article de Giscard suffirait à justifier que les 15 ou 16 millions de personnes qui ont voté non descendent dans la rue pour protester au fait qu'on va les violenter en leur imposant. Alors, sur les reproches qu'on peut faire, le détail des reproches, mais je vais aller vite pour pas prendre trop de temps, on peut facilement passer une après-midi là-dessus, mais les grands items, les grandes têtes de chapitre de reproches majeurs, je vous garde le plus important pour la fin. C'est d'abord la faiblesse extrême du Parlement, évidemment. Nos élus sont réduits à la portion congrue dans ces institutions. C'est vrai que le traité augmente un peu les pouvoirs de ce Parlement, mais comme on part de très très bas, on reste très très bas, et finalement, cette étape qui peut être vécue comme une des dernières évolutions du texte, en fait, nous laisse avec un Parlement qui n'a même pas l'initiative des lois. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte que nos élus ont été dans ces institutions dépouillés des principaux pouvoirs, des principales prérogatives qui sont attachées normalement au pouvoir parlementaire, qui est dans ces institutions, le seul élu, c'est-à-dire le seul qui a la souveraineté liée au suffrage universel. Donc la faiblesse du Parlement, c'est déjà quelque chose d'inadmissible, mais c'est pas tout. Il y a plus grave encore, la confusion des pouvoirs dans les mains des exécutifs, et là on voit, comme on voit partout d'ailleurs dans le texte, que ce sont les exécutifs qui ont écrit eux-mêmes les règles, donc ils ont écrit des règles pour eux-mêmes. C'est ça la cause, à mon avis, la cause majeure de toutes ces injustices, de tous ces abus de pouvoir, de toutes ces félonies qu'il y a dans ces institutions. Elle tient aux auteurs de ces institutions. C'est parce que ce sont des ministres qui ont écrit ces règles que les ministres sont aussi puissants, à la fois puissants et irresponsables. Unaccountable, n'ont aucun compte à rendre, comme on dit en anglais. C'est à l'occasion de la confusion des pouvoirs, on découvre ce que j'appelle moi des lois sans parlement. Vous avez bien entendu, des lois sans parlement, c'est-à-dire des normes obligatoires de portée générale et sans limitation dans le temps, des éléments de droit très dangereux pour les citoyens et qui vont être pris sans parlement, c'est-à-dire sans l'accord, sans même que nos élus, ceux qui nous représentent, ceux qu'on a désignés, puissent y mettre leur nez pour vérifier le bien fondé. Ces lois sans parlement, elles sont listées nulle part. Vous n'avez pas la liste des domaines dans lesquels la Commission et le Conseil des ministres peuvent écrire le droit qu'ils vont ensuite exécuter, confusion des pouvoirs. En fait, c'est même pas, ça s'appelle même pas loi sans parlement, ça s'appelle des procédures législatives spéciales et actes non législatifs. Alors allez comprendre avec ça quand vous êtes un simple citoyen sans formation juridique, c'est obscur, quoi. Hein, procédure législative spéciale, qu'est-ce que ça veut dire? Et il n'y a pas de liste. En fait, il faut se tartiner les centaines de pages des traités pour comprendre, pour trouver de temps en temps, tiens, ah, ça, c'est une procédure législative spéciale où la Commission et le Conseil des ministres décident seuls, tiens, alors c'est sûrement un sujet sans importance. Ah bah non, tiens, non, c'est la concurrence. Ah bah rien que ça. C'est-à-dire qu'en matière de concurrence, la Commission et le Conseil des ministres décident seuls sans le Parlement. Enfin, c'est incroyable qu'on n'ait pas de débat là-dessus. C'est-à-dire qu'on nous impose une confusion des pouvoirs, c'est-à-dire des sujets sur lesquels l'exécutif écrit les lois qu'il va ensuite appliquer. C'est la définition de la tyrannie depuis Montesquieu. Tout le monde sait qu'il faut séparer les pouvoirs pour les affaiblir, pour nous protéger, nous, contre les abus de pouvoir. La confusion des pouvoirs, c'est probablement le plus dangereux des syndromes de ces institutions qu'on va nous imposer par violence le 4, sans rien dire d'ailleurs, puisque les médias se taisent, hein, y a guère que vous et quelques médias alternatifs qui servent de rempart, mais les médias se couchent comme ils se couchaient en 40. Hein, je trouve que c'est effrayant ce qui est en train de se passer.
J'ai entendu, c'était hier, hein, je crois, Jean-Luc Mélenchon, c'était sur Canal+.
Faire le parallèle.
Qui parlait, non pas faire le parallèle, non, qui parlait justement lui aussi de viol, enfin qui mettait en avant le fait qu'on se moquait de la population française. Et c'est respecter notre nom hein, qui revient en force.
Mais il y a quelque chose de désespérant au fait que la population française en question, elle reste manifestement inerte devant ce viol. Et ça, c'est désespérant quand même, parce qu'on se demande, on se dit, mais attends, mais s'ils ne bougent pas comme ça, mais ils ont un peu ce qu'ils méritent, quoi, les gens. Si quand on les viole aussi ouvertement, aussi profondément aussi, sur des choses aussi importantes, ils disent rien. Mais pourquoi est-ce qu'ils se gêneraient au pouvoir? Parce que vraiment, ils peuvent nous faire ce qu'ils veulent, quoi, puisque de toute façon, on ne bouge pas. D'une certaine façon, on a un peu ce qu'on mérite. Alors bon, pour ceux qui se bagarrent, c'est un crève-cœur, mais... Mmh. Alors, sur la liste des items graves, graves, gravissimes, je n'ai pas du tout fini. Hein, il y a encore des choses très importantes dont les citoyens devraient s'emparer pour imposer le débat. Il y a la dépendance des juges par rapport aux exécutifs qui les nomment, ce qui ne trouve dans aucune démocratie, dans toutes les démocraties, l'indépendance de la magistrature, l'indépendance du troisième pouvoir, du pouvoir judiciaire, est une des clés, un des piliers de la démocratie. Or, dans les institutions européennes, je fais vite, chaque État nomme un juge pour 6 ans. C'est très court, 6 ans. 6 ans, ça veut dire que très vite, le juge va se préoccuper du renouvellement de de sa mission. Et parce que c'est 6 ans renouvelables, donc non renouvelables, ça veut dire que les juges, en termes clairs, ça veut dire que les juges dépendent pour leur carrière, les juges européens, extrêmement puissants, dépendent pour leur carrière, des exécutifs qui vont avoir à juger, une marque de plus de la confusion des pouvoirs dramatique qui émaille ces institutions. Et que tout ça en plus se fasse sans débat et sans nous et sans référendum, à quel moment on va parler de tyrannie? À quel moment on va dire ça n'a même plus l'apparence de la démocratie, quoi, on se fout du monde. Alors, c'est pas tout. Quand vous lisez ces textes, ces institutions, vous, aussi bien dans le TCE que dans le traité de Lisbonne, c'est pareil, on est consterné par l'irresponsabilité des acteurs. Quand vous regardez les acteurs et à quel moment on pourrait mettre en jeu leur responsabilité. Mais personne n'est responsable de ces actes là-dedans. Les acteurs politiques, les acteurs dans les institutions européennes sont irresponsables. Ce sont des gens qui ne rendent pas de compte. C'est incroyable qu'on n'en parle pas. C'est incroyable qu'on accepte ça. Enfin, je veux dire, ça n'a même plus l'apparence de la démocratie. Le Parlement peut être renversé par personne. Le Conseil des ministres peut être renversé par personne. Le Conseil européen peut être renversé par personne. La Banque européenne n'a de compte à rendre à personne. Mais enfin, qui est responsable de ces actes là-dedans? Alors, apparemment, on dirait que la Commission peut être censurée par le Parlement, mais on s'aperçoit très vite que c'est complètement théorique, fictif, que c'est en fait un postiche, une institution, un simulacre de responsabilité, puisque cette responsabilité, censure de la Commission, elle ne peut jouer qu'aux deux tiers. Attendez, pourquoi deux tiers dans les démocraties du monde? C'est la moitié. Deux tiers du Parlement, un Parlement couverture écossaise comme le nôtre, vous savez qu'il n'y a pas de peuple européen, c'est-à-dire que chaque groupe de parlementaires est élu dans son coin et qu'il n'y a en fait pas d'unité dans ce Parlement. C'est compliqué d'obtenir une majorité dans ce Parlement. Et dire qu'il faut une majorité aux deux tiers pour renverser la Commission, ça veut dire que c'est impossible, il faut vraiment qu'ils aient piqué dans la caisse, comme ça a été le cas pour la Commission Santerre. Il faut qu'ils aient fait quelque chose de gravissime pour que la responsabilité de la Commission puisse être mise en jeu. Et puis en fait, bon, la responsabilité politique de la Commission, on voit bien qu'elle n'est jamais mise en jeu. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une irresponsabilité des acteurs qui est un item que vous devriez mettre au débat, dont on devrait parler. Le plus important reste à venir. Hein. Les révisions constitutionnelles qui sont possibles sans référendum et que j'analyse moi comme un chèque en blanc. Le fait que les hommes au pouvoir, c'est-à-dire les ministres et les parlementaires et les juges puissent, après que ces institutions aient été mises en place, puissent modifier ces institutions sans nous, sans référendum, alors que ce sont les règles qui sont censées limiter leur pouvoir. Mais le fait que les hommes au pouvoir puissent modifier eux-mêmes, sans nous, les limites de leur pouvoir, c'est rien d'autre qu'un chèque en blanc. Et c'est, je crois, on a là la genèse de notre impuissance politique. Je pense que c'est parce que les hommes au pouvoir écrivent eux-mêmes les règles du pouvoir. Plus précisément, c'est parce que nous laissons, nous les autres, ceux qui n'avons pas le pouvoir, c'est parce que nous les laissons écrire sans protester, sans tempêter, c'est parce que nous les laissons écrire les règles de leur propre pouvoir, qu'ils écrivent des règles dans lesquelles il n'y a pas de contrôle et qu'ils organisent notre impuissance politique. Je pense que c'est ça la clé pour comprendre. Et j'ai gardé le plus important pour la fin. L'institution la plus détestable, celle qui justifie, je pense, pour ceux qui ont créé ces institutions, qui justifie toute la construction européenne, c'est le sabordage monétaire. Et c'est celui qui fait le moins l'objet de débats. Sur la monnaie, les débats qui ont lieu concernent l'indépendance de la Banque centrale, qui pourtant est une bonne chose. C'est sûrement bien que la Banque centrale soit relativement indépendante des élus et des exécutifs qui pourraient se servir de la monnaie comme d'un outil électoraliste pour favoriser une clientèle et obtenir à bon compte les prochains suffrages. Donc c'est bien, enfin, en tout cas ça se défend, que la Banque centrale soit indépendante. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème c'est la mission qu'on a donnée à la Banque centrale. La mission qu'on lui a donnée est exclusivement de lutter contre l'inflation. Or on sait, tous les banquiers du monde savent que quand ils luttent contre l'inflation, ils favorisent le chômage des plus faibles, le chômage des moins formés. Tout le monde sait que quand on va se battre contre l'inflation, on va augmenter le chômage. C'est quand même extravagant d'avoir mis au plus haut niveau du droit, dans la Constitution, un endroit où on ne peut plus rien changer, d'avoir mis dans ces institutions, comme de façon intangible, d'avoir mis le fait qu'on va institutionnaliser le chômage, c'est-à-dire qu'on va ne plus se battre que contre l'inflation, et donc tant pis pour le chômage, mais qui a décidé ça? Sûrement pas nous, et on serait bien fous d'accepter des institutions dans lesquelles le chômage est rendu obligatoire. Enfin ça c'est quand même extravagant, mais c'est pas le plus important. C'est-à-dire que ça c'est des sujets sur lesquels on a un peu débattu en 2005 et sur lesquels on débat plus aujourd'hui. Mais il y a le plus important c'est la création monétaire. La création monétaire a été abandonnée aux banques privées et personne n'en parle. Et ça, en France, ça date de 73. Au moment du serpent monétaire européen, c'était à l'époque de Giscard, l'État s'est interdit à lui-même de créer la monnaie. Jusque-là, ça marchait comment? Ben, les banques pouvaient créer de la monnaie, ça fait longtemps, ça fait des siècles que les banques privées peuvent créer de la monnaie, ce qui est une folie. Hein, bon, mais c'est comme ça. Mais au moins, les États pouvaient aussi créer de la monnaie. Comment ça se passe? Eh bien, quand l'État avait besoin de monnaie pour construire les autoroutes, construire les hôpitaux, construire des porte-avions, je sais pas, pour construire des logements sociaux, quand l'État avait besoin d'argent, il empruntait auprès de sa banque centrale qui créait l'argent pour l'occasion et on lui remboursait ensuite sur les années qui suivaient sans payer d'intérêt. Écoutez bien. Sans payer d'intérêt. C'est-à-dire que quand l'État empruntait auprès de sa banque centrale, la banque centrale créait l'argent et on lui remboursait sans intérêt. Et ensuite, à chaque fois qu'on rembourse, on détruit la monnaie qu'on a créée au départ. Exactement le même principe, le même mécanisme que ce qu'on rencontre quand on emprunte auprès d'une banque privée. Au moment du prêt, il y a création de monnaie. Au moment du remboursement, il y a destruction de monnaie. Mais la différence quand l'État créait sa propre monnaie, c'est qu'il ne payait pas d'intérêt. Or, en 73... Et depuis, je vous signale que la dette ne fait qu'augmenter et le chômage ne fait qu'augmenter. En 73, la France s'est privée elle-même, s'est interdit de créer la monnaie. Et ça veut dire qu'elle est obligée d'emprunter auprès des acteurs privés, ceux qui ont de l'argent, les riches ceux qui ont de l'argent à placer, les banques, et les zinzins, les investisseurs institutionnels, tous ceux qui ont de l'argent prêtent de l'argent à l'État et l'État doit payer un intérêt. C'est fou, il n'y a aucune raison qu'on paye un intérêt sur une monnaie qu'on pourrait créer, qu'on me donne, et au moins qu'il y ait un débat, peut-être que je me trompe, mais j'ai derrière moi des pointures de l'économie, le prix Nobel d'économie, des gens qui ont réfléchi à la question et qui tempêtent contre cette création monétaire concédée aux banques privées. Eh bien, ce qui s'est passé dans ces institutions européennes, c'est que on a non seulement en 73, on avait interdit donc la création monétaire pour les États, donc c'était par la loi, et on pouvait revenir en arrière sur cette décision unique par la loi, mais ce qui s'est passé en 92 au traité de Maastricht, c'est qu'on a monté au plus haut niveau du droit, à un niveau irréversible, un niveau où ça devient impossible de revenir en arrière, l'article 104 de Maastricht interdit aux États de créer la monnaie. Ce qui est grave, c'est qu'on puisse plus revenir en arrière sur cette... Déjà, c'est une félonie, mais en plus, on peut plus revenir en arrière. L'article 104 de Maastricht, qui est devenu l'article 123 ou 126, je ne sais plus, du traité de Lisbonne, cet article-là, il est central. Je pense que c'est la... Je pense même, en tournant tout ça dans ma tête, je pense que le cœur nucléaire des institutions européennes, c'est l'article 104 de Maastricht. C'est-à-dire que tout a été construit pour ça, parce que une fois que les banquiers ont l'exclusivité de la création monétaire, ben vous pouvez voter à gauche, vous pouvez voter à droite, de toute façon l'État est ruiné par les intérêts de la dette. Vous rendez-vous compte qu'aujourd'hui, chaque année, on paye 40-42 milliards juste pour les intérêts, on rembourse même pas le capital, c'est que de l'intérêt, on 40 milliards, mais qui sont gaspillés pour des acteurs des prêts qui n'ont pas lieu d'être. Il n'y avait aucune raison de leur emprunter. Tout cet argent, on aurait pu le créer nous-mêmes et simplement ne pas payer d'intérêt. Il me semble que le boulot des journalistes de base, ça serait au moins d'organiser sur ce sujet majeur un débat avec des opinions contradictoires, que des gens me contredisent, que des gens contredisent Alain, qui est au moins un débat là-dessus, mais que les journalistes se taisent sur un sujet aussi majeur, mais c'est choquant, c'est révoltant, vraiment. Et ça va passer comme une lettre à la poste parce que les journalistes n'en parlent pas. Le viol du 4, là, mais on devrait être des millions dans la rue à Versailles pour protester contre cet abus de pouvoir, la souveraineté ne leur appartient pas. Ils sont en train de la brader à des institutions sans contrôle, mais ils n'ont pas le droit de le faire. C'est pas parce qu'ils ont le pouvoir qu'ils ont tous les pouvoirs. Les parlementaires sont en train de trahir leur population. Ils sont en train d'abandonner les gens qu'ils représentent. Et ils méritent d'être chassés. C'est choquant ce qu'ils vont faire, là. Et particulièrement les socialistes qui sont normalement de gauche et qui ont promis qu'ils tenaient au référendum, quand ils décident de s'abstenir, quand ils décident de pas y aller ou de s'abstenir, c'est une félonie, c'est une malhonnêteté honteuse. Je veux dire, les socialistes se discréditent au regard de l'histoire. C'est une honte ce qu'ils sont en train de faire. Tout ça pour du pognon. C'est vraiment le PS, ils sont... à part les quelques qui résistent, il y a une petite frange du PS qui sont valeureux et résistants, mais la plus grande partie de l'appareil du Parti Socialiste, ils sont à vomir, vraiment.
Étienne Chouard, est-ce que...
Porte, mais vraiment,
oui, non, mais on entend bien, on entend bien ce que vous nous dites, et je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent intervenir lorsqu'ils le souhaitent, pour vous contredire ou pour abonder dans votre sens ou vous poser des questions. Est-ce que votre site internet, qui est encore connu par beaucoup de personnes qui l'ont fréquenté en 2005, est-ce que vous avez eu quand même, est-ce qu'il y a eu un frémissement, c'est-à-dire un renouveau de débat, ou est-ce que effectivement c'est très très calme?
Ça renaît un peu, mais on est très loin de ce qui devrait être. On devrait être des millions, donc tout ça c'est dérisoire. Le problème, c'est que sans les journalistes, la démocratie est foutue.
Oui, mais en même temps,
ouais,
mais Étienne Chouard, en même temps, sans les journalistes, la démocratie est foutue.
Ben oui.
Je ne peux qu'être d'accord avec vous, mais en même temps, les personnes qui sont senties concernées par ce débat sur le référendum en 2005, faut pas tout le temps les prendre par la main. Elles doivent aussi réagir par elles-mêmes et continuer à réfléchir, comme vous le faites, par exemple.
Ah oui.
Je veux dire, il n'y a pas que les journalistes dans l'histoire. Je suis assez d'accord avec vous sur le fait qu'il n'y a pas assez de débat sur le sujet. Maintenant, la population qui s'était bougée en 2005 et qui était contre ce traité doit être encore active aujourd'hui.
Bah, vous savez, moi, les gens avec qui j'en parle, c'est incroyable. Enfin, on est bientôt en février 2008 et quand je les entends découvrir, c'est-à-dire ils savaient même pas que le traité allait passer par voie parlementaire, alors que c'est le même que celui qu'on a refusé par référendum. Il ne le savait même pas quand il le découvre. Il commence à nous faire une colère. Je veux dire, il faut se rendre compte que l'information des gens, c'est absolument essentiel.
Oh, ça a été annoncé.
On n'est pas informé. Hein.
Ça a été annoncé pourtant. Là, je suis pas d'accord. Le fait que le traité allait être signé, la non-venue des socialistes, enfin, ça a été annoncé. Ça, penser à un désintéressement de la population.
Il y en a encore plein qui ne le sont pas. Je veux dire qu'il y en a encore plein qui ne le sont pas, qui ne prennent pas la mesure. Je veux dire, bon, enfin, moi, je me mets un peu à la place aussi des gens, quand même. Hein. On travaille toute la journée, on a bossé, on est fatigué, on rentre, on s'affale, on va bientôt dormir pour retourner bosser. Enfin, c'est un côté hamster dans sa roue là, qui fait qu'on n'a pas envie de faire de la politique. Je comprends ça. Hein, je veux dire, et puis si à la télé, aux heures de grande écoute, il n'y a pas des débats avec des gens qui s'empaillent et qui montrent les enjeux, qui montrent qu'il y a des choses graves qui sont en train de se passer et des désaccords, s'il n'y a pas cette mise en scène des conflits quotidienne qui montre aux gens que en fait il y a un vrai sujet de conversation, s'il n'y a pas ça, cet effort pédagogique pour montrer les opinions et les opinions générales et les opinions dissidentes, montrer les conflits, quoi, hein. S'il n'y a pas ça, les gens roupillent en croyant que tout va bien, mais c'est Orwell, quoi, hein. c'est typiquement ce que redoutait la situation que redoutait Orwell, quoi. Moi je lis 1984 là en ce moment, c'est fabuleux, c'est incroyable, ce gars-là a vu Orwell et nous montre à la loupe ce qui est en train de se passer, quoi. Je veux dire, les deux minutes de la haine dans 1984, on les retrouve au journal quand on stigmatise le terroriste, l'image fantasmatique du terroriste qui devrait nous rendre haineux et méchants et mauvais pour vomir notre bile, et nous distraire de tous les problèmes qui viennent en fait de des gens qui sont censés nous représenter. On est en plein dedans, quoi.
Étienne Chouard, je coupe un instant. Je reprécise à nos auditeurs que pour poser vos questions à Étienne Chouard concernant ce traité, mini-traité ou traité de Lisbonne, vous l'appellerez comme vous le souhaitez, c'est le 08 92 23 95 20 pour poser vos questions à Étienne Chouard ou tout simplement pour dire que vous n'êtes pas d'accord avec lui. Le plus intéressant, c'est le débat. Et il y a donc René qui a décidé de nous joindre. René, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Chouard. Je vous appelle parce que j'ai bien écouté vos dernières émissions qui sont assez remontantes.
Est-ce que tu peux t'éloigner un peu de ton combiné, René, parce que ça sature un peu.
Ça sature, là ?
Ouais.
C'est mieux, là.
Oui, ça va être un peu mieux. Vas-y,
voilà,
continue.
Parce que j'ai un kit piéton. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai écouté beaucoup vos émissions ces dernières semaines. Et donc j'ai relancé un petit peu j'ai pris conscience un petit peu du fait que effectivement on essayait de refaire passer la Constitution européenne telle quelle.
Ils n'essayent pas, ils vont le faire.
Ils vont le faire. Enfin, attendez. D'un côté, vous êtes très remonté contre. Le fait que vous êtes pessimiste dans un certain sens.
Ah ben, je vois bien, vous savez, il reste rien. Et puis
monsieur Chouard. Je m'y étais pas intéressé. Le fait que ce soit traité de mini-traité, ça a été édulcoré, donc ça passe mieux psychologiquement au niveau des gens.
C'est une apparence.
Voilà.
Parce que c'est pas vrai.
Voilà. Donc, il faut qu'il y ait des relais, il faut qu'il y ait des personnes qui s'y intéressent. Vous participez à démontrer que c'est un viol. Je dirais que concernant M. Sarkozy qui a été élu à 53% de vote, déni les 55% de vote qui ont été contre la Constitution. Donc en tant que démocrate, je crois qu'il faudrait qu'il révise un petit peu ces notions de démocratie. D'autre part, moi ce que je fais en ce moment, c'est que je commence à téléphoner et à envoyer des emails à tous mes proches. à des gens qui ne sont pas proches ou d'autres, et à commencer à en parler. Je pense que ça peut commencer par là. Je ne pense pas que le mouvement que vous avez lancé, qui a été un mouvement éclair et qui a sensibilisé beaucoup de gens, ne peut pas se refaire. Je pense que le monsieur Sarkozy est assez malin pour que ce mini-traité passe pour quelque chose de plus simple, de plus facile à accepter, dans la mesure où les amendements éventuels pourront nous permettre de faire un consensus acceptable, mais il ne l'est pas. En espèce, c'est la même chose, selon ce que vous disiez, selon ce qu'a dit monsieur Giscard d'Estaing, c'est la même chose que ce que j'avais fait, sauf que c'est découpé en petits morceaux, etc., etc. Mais ce que je voulais vous dire, pour faire simple, c'est que je commence à en parler sur... j'envoie des emails un petit peu partout, sur des gens qui ne sont pas sensibilisés sur la politique, absolument pas, et je leur explique que pourquoi le pouvoir est conféré à tel pouvoir, tel pouvoir, tel pouvoir, qui n'ont rien à voir avec tel pouvoir, qui devait être, vous nous l'avez très bien expliqué, que ce devrait être conféré à des personnes qui devraient décider démocratiquement à qui devrait être allégué ses responsabilités, ce qui n'est pas fait, et que cette démocratie est entachée. Mmh. Donc, petit à petit, il nous reste 3 mois, là, je crois, avant les
matchs. Il reste un mois.
Comment, Étienne Chouard ?
Il reste un mois.
Voilà. Donc, moi, de mon côté, je commence à envoyer des emails un petit peu partout et à parler à mes amis de ce qu'il en est. Bon, ils sont un petit peu fatigués, il faut le reconnaître.
Il
commence à prêter l'oreille dans la mesure où il faut, comme vous le faites, marteler. On ne peut aboutir qu'en ne martelant que cette constitution n'est que exactement la même chose.
Mais c'est pour ça que Étienne Chouard est très présent ces temps-ci sur l'antenne, parce qu'après il sera trop tard.
Donc, c'est
pas un mois, c'est une semaine, Étienne Chouard. Oui, c'est lundi. René, merci pour ton intervention.
Merci.
On a bien saisi ce que tu voulais dire. Merci à toi. 08 92 23 95 20 pour vos questions ou vos témoignages à Étienne Chouard. Nous accueillons maintenant Francis. Francis, bonjour.
Oui, bonjour. Moi, je voudrais apporter un élément que vous ne mettez pas dans votre discours concernant en fait le problème, le déficit démocratique donc de la Constitution européenne. Alors c'est clair que ce que vous dites c'est vrai, c'est-à-dire que il y a des chapitres entiers de prérogatives gouvernementales de tous les États de l'Union européenne qui vont être transférés à la Commission européenne. Donc la Commission européenne c'est juste une association donc d'experts européens qui prennent donc des décisions indépendamment donc des suffrages populaire et indépendamment du pouvoir législatif. Et donc c'est un pouvoir qui est parfaitement arbitraire et c'est une dérive de la démocratie, donc on ne peut plus parler de démocratie. Moi je voudrais simplement, il y a vraiment un point mais qui est capital et qui n'est jamais abordé également donc dans les informations, puisque vous dites que les journalistes se couchent et que l'opinion publique est désinformée et que personne ne prend le temps donc de militer, s'informer, de se poser des questions. Moi, je voudrais poser donc la question de l'élargissement de l'Europe à un pays tel que la Turquie, parce que c'est exactement ce que vous êtes en train donc de dénoncer, c'est qu'au même titre qu'on perd donc des libertés politiques fondamentales donc dans ce pays, concernant donc le processus d'élargissement de l'Union européenne à la Turquie, c'est un processus qui est déjà enclenché et qui de toute façon va se faire sans l'adhésion donc des populations européennes. Parce que donc en fait c'est un forcing qui est en train de se faire et ça pose donc des questions. Qui sont pas seulement économiques, parce qu'on sait que la Turquie, c'est un pays qui est en plein essor économique, mais c'est aussi des questions sur le plan politique, parce que lorsqu'on voit les résultats donc des élections législatives ou présidentielles en Turquie, on voit que les partis islamistes sortent grands vainqueurs Et donc la Turquie, c'est près de 70 millions donc d'habitants. Et si vous faites un sondage, c'est près de 20% de la population qui est prête à venir vivre donc dans les capitales européennes. Et donc pour finir, c'est vrai que il y a un manque d'informations énorme. Et ça, je trouve que vous n'en parlez jamais, quoi.
Merci à toi, Francis. Voilà. Merci à toi.
Il faut se méfier un petit peu de ce sujet qui est à double tranchant.
Tout à fait. Nous n'aborderons pas aujourd'hui la Turquie. Nous aborderons par contre, effectivement, l'élargissement de l'Europe.
Oui. Et en fait, d'une façon générale, je trouve qu'on devrait tous dire que... Il me semble qu'on devrait être prêt à se rapprocher des peuples qui en ont envie. À condition qu'on nous le demande et qu'on mette en place des institutions qui permettent de garder le contrôle des hommes au pouvoir. C'est-à-dire que si on posait vraiment la question aux gens, est-ce que vous voulez fraterniser avec l'Italie, avec l'Allemagne, avec l'Angleterre, avec la Turquie, ça n'est égal, même la Turquie, pourquoi pas, est-ce que vous voulez fraterniser avec ces gens-là, et si eux répondent la même chose, c'est-à-dire si les peuples sont d'accord pour se rapprocher, et si... Attention, et si l'Assemblée constituante est honnête, c'est-à-dire que l'Assemblée constituante qui écrit les règles qui vont chapeauter la création du droit, qui vont déterminer les conditions de création du droit, si ces règles sont effectivement démocratiques, ce qui sera une véritable amélioration par rapport à la cinquième, par exemple, qui est tout sauf démocratique, on y gagnera sûrement, mais il faut que les conjoints, entre guillemets, donnent leur accord direct, et pas leur papa, pas leur tuteur, pas leur parlement. Là, on est en train de nous marier de force, c'est insupportable. C'est précisément ça le problème. Mmh. Mais si les peuples sont prêts à fraterniser, si le peuple français est en majorité prêt à fraterniser avec le peuple turc, qui lui, de son côté, est prêt à faire la même chose, avec des institutions qui sont réellement, qui mettent en place de réels contrôles des pouvoirs, pourquoi pas ?
Oui, tout à fait.
Le problème, c'est que c'est pas du tout ça qui se passe, pas du tout. Là, l'élargissement infini des pays sans l'accord des peuples, il permet en fait d'interdire l'Europe politique, d'interdire la démocratie, d'interdire le contrôle des pouvoirs. Et c'est ça qui est majeur, c'est que... En prétendant construire une démocratie, ils font le contraire. C'est-à-dire qu'ils mettent en place des institutions qui interdisent toute démocratie, tout contrôle.
Étienne Chouard, je vous arrête là et nous accueillons Julien.
Oui, bonjour à tous les deux, bonjour à tous.
Bonjour.
Voilà, moi je voulais vous dire trois petites choses assorties de trois petites ou grosses questions d'ailleurs. Bon, premièrement, sur le Parti Socialiste, entièrement d'accord avec M. Chouard. Ils ont défendu le référendum, ils l'ont défendu pour la forme, ils se couchent. Mais c'est pas étonnant, donc ça prouve que Madame Royal n'avait peut-être pas beaucoup de convictions. Bon, deuxième chose aussi brève, Monsieur Sarkozy a dit ce qu'il allait faire, il l'a fait. À l'époque, Le Pen avait dit que c'était une objection dirimante qui devait empêcher de voter Sarkozy. Pour le coup, il faut reconnaître que Le Pen avait raison. On peut pas lui reprocher d'avoir fait ce qu'il a dit. Maintenant, la troisième chose que je voulais vous dire, et là je reprends une conversation qu'on a eue, vous et moi, Monsieur Chouard. Moi, je vous avais téléphoné il y a fort longtemps à la faveur d'une émission semblable pour vous dire, au moment du traité constitutionnel de 2005, que ce traité comportait une clause de sortie. Et je vous disais peut-être que justement, même si on est tout à fait pour le non, il faudrait voter oui. Il faudrait voter oui parce que ça nous assurerait une clause de sortie que de fait on a perdu en votant non et qu'on ne retrouvera pas de sitôt.
Que veux-tu dire par clause de sortie,
c'est
Julien ?
C'est une possibilité pour un État de sortir de sa propre initiative de l'Europe.
C'est
d'accord.
Article 1, numéro 60. Moi j'avais retenu surtout cet article parce qu'il m'intéressait beaucoup. Derrière ça, bon, les questions sont les suivantes. Premièrement, est-ce que vous ne vous sentez pas, en ayant voté non alors qu'il y avait cette clause de sortie, un petit peu aussi une victime du système médiatique, est-ce que vous ne regrettez pas tout simplement d'avoir appelé non en dépit de cette clause de sortie qui était là et qui n'y est plus ? Et la deuxième question, c'est, elle est plus vaste, c'est comment est-ce que vous voyez, quelle est votre manière d'envisager, mais ça entraînerait des heures de débat peut-être, un monde organisé en démocratie de nations où, dans lequel il faut quand même... malgré tout, envisager des blocs pour être des puissances face à des puissances, quoi.
Voilà. Alors, Étienne Chouard.
D'abord, sur la promesse de Sarkozy, ce sera vite fait, parce qu'il n'a pas fait ce qu'il a promis du tout. Il avait promis un mini-traité simplifié, et c'est là-dessus qu'il a été élu. Il n'a pas été élu on fait passer le TCE de force. Donc, c'est pas vrai de dire qu'il fait... Enfin,
c'est pas tout à fait exact, parce qu'il avait... Excusez-moi, il avait quand même détaillé ce qu'il voulait mettre dans le mini-traité simplifié.
Non, mais le texte n'avait pas été encore écrit, le traité de Lisbonne n'avait pas été écrit, la conférence intergouvernementale, au moment où il a été élu, n'avait pas encore écrit son texte, donc on ne pouvait pas savoir
c'est
pourquoi...
C'est exact, mais les détails qu'il donnait de la rédaction du texte qu'il souhaitait faire adopter étaient effectivement, enfin, comportaient toutes les dispositions qui sont maintenant dans le texte, dans le traité de Lisbonne.
C'est Vincent, votre prénom, c'est ça ?
Julien.
Julien. Oui, mais Julien, quand il dit je ferai passer un mini traité simplifié juste pour faire marcher l'Europe et réconcilier ainsi les gens du oui et du non, quand on vote pour lui sur un programme pareil, enfin quand on s'aperçoit que ce qu'il fait en fait, c'est de faire passer le TCE tel quel, c'est-à-dire celui qui avait pour lequel les whistes voulaient voter. C'est une arnaque, c'est une escroquerie, c'est évident. C'est ni mini, ni simplifié. En fait, c'est de la triche.
Oui, mais c'est une arnaque en amont, encore une fois, parce qu'il aurait fallu que les journalistes ou que nous, l'opinion, nous soulignions que dans le mini-traité ou prétendu mini-traité qu'ils voulaient nous faire adopter, il y avait déjà toutes les dispositions qui sont dans celui-ci.
Ben oui, enfin bon, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est
voilà,
c'est
alors, pour cette question,
vous l'avez élu, vous l'avez voulu, pour moi, ça relève de l'escroquerie, c'est pas...
Pour cette question, Serge, est-ce qu'il y a du monde en attente ? Excusez-moi, je gère un petit peu le temps des réponses. Pour la deuxième question.
Sur la clause de sortie. Sur la clause de sortie, j'avais bien repéré cette possibilité, mais c'est un détail quand même, parce que même s'il n'y a pas la clause de sortie, tous les traités du monde se sont fait, un jour ou l'autre, finalement, dénoncer. Sans clause de sortie, c'est-à-dire qu'une vraie volonté politique nous permet de sortir d'un engagement inique.
Oui, mais auquel cas celui-ci aussi peut être dénoncé alors.
Alors voilà, c'est oui, tout à fait. Donc, absolument. Et d'ailleurs, c'est l'espoir que je continue à avoir, moi. Donc, si vous voulez, c'est un détail. Je veux dire, vous vous rendez compte qu'on est en train d'organiser la fin de la République, la fin de la démocratie, la fin complète des contrôles des pouvoirs, des institutions qui donnent le pouvoir aux multinationales et aux banques pour écrire le droit. On va pas dire oui parce qu'il y a la possibilité de sortir, vous comprenez ? Je veux dire, en termes, vous avez raison, hein, c'était peut-être le seul point positif dans l'absolu.
Détails, ouais.
Bon. Dernier point sur l'organisation imaginable d'associations entre États pour créer des blocs qui permettent de faire face aux autres. J'ai entendu maintes fois cet argument dans la bouche des partisans des traités constitutionnels en disant il faut qu'on fasse pièce à l'Inde, il faut qu'on fasse pièce à la Chine, il faut qu'on soit plus fort pour la guerre économique. Mais, excusez-moi, mais pour moi, cet argument-là, je vous prête pas ces intentions, mais... Pour moi, ces arguments-là, ils sont nationalistes. C'est-à-dire qu'on n'est plus au niveau de la nation, on est au niveau de l'Europe, mais on est en train de fabriquer une espèce de chauvinisme européen pour faire pièce au reste du monde. Et pour moi, c'est le même argument nationaliste que le nationalisme ordinaire, mais juste un cran au-dessus. Si vous voulez, moi, je construis pas, je ne rêve pas d'une Europe pour me bagarrer avec les autres pays du monde. Pas du tout, du tout, du tout. À mon avis, il y a une autre organisation du monde qui n'est pas conflictuelle, qui n'est pas la compétition à tout craint, et qui est basée beaucoup plus sur la... collaboration.
Au-delà de se bagarrer, la concurrence peut être une chose intéressante.
Mais intéressante, mais pas une... Oui, absolument. Moi, je vois bien sûr des tas de vertus à la concurrence, mais une concurrence d'abord loyale, alors que la concurrence avec la Chine, elle est profondément et rigoureusement et détestablement déloyale. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte que pour avoir nos jouets à pas cher, on tient en esclavage, je dis bien en esclavage, des centaines de millions de Chinois.
Oui, mais c'est comme ça depuis 25 siècles. Je veux dire, quand Voltaire écrivait « C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe
». C'est une vieille histoire, mais le fait que ce soit une vieille histoire ne le rend pas tolérable. Je veux dire, vous avez raison, c'est une vieille
histoire. Mais écologiquement, ça fonctionne comme ça. Anthropologiquement, c'est comme ça. Je veux dire, le monde, c'est un conflit de puissance. Donc, comment le faire marcher autrement ? Comment prendre acte du fait que c'est un conflit de puissance et limiter les dégâts, si
alors, on va laisser Étienne Chante répondre, Julien, et puis après, nous accueillerons Paul. Hein.
Si nos acteurs politiques, au lieu d'être à la botte des corporations, c'est-à-dire on parle de personnes morales, pour parler des entreprises, mais précisément, elles sont rigoureusement immorale. Si au lieu d'avoir des hommes politiques mis à la botte de ces personnes immorales que sont les multinationales et les banques, si au lieu de ça, on avait des institutions qui gardent sous contrôle les hommes politiques, C'est les hommes politiques qui font les guerres. Et comme les hommes politiques sont les marionnettes des banquiers et des industriels, ce sont les banquiers et les industriels qui créent les guerres. Il faut lire les travaux d'Annie Lacroix-Risse sur les années 30, qui prouvent dans les archives, qui trouvent dans les archives et qui prouvent par des milliers de comptes rendus, de notes, de cahiers de police, de registres, de préfectures, qui prouvent que les banquiers et les industriels dans les années 30 ont fait la guerre, ils n'ont pas collaboré avec l'ennemi, ils ont fabriqué l'ennemi pour se débarrasser de la République. Quand on s'aperçoit de ça, on se dit, les guerres, c'est facile de s'en débarrasser avec des institutions qui séparent les hommes politiques des banquiers et des industriels.
Julien,
pour rendre nos hommes politiques indépendants des forces économiques.
Julien, Étienne, je vous arrête là, Étienne, parce que...
C'est possible, ça, je veux dire. Hein. C'est pas une utopie, c'est une histoire de constitution.
Il faut des institutions régulatrices.
Des institutions régulatrices, tout à fait.
Il faut simplement que les institutions soient écrites par des hommes honnêtes, par des hommes désintéressés. Donc, il ne faut pas qu'ils les écrivent eux-mêmes.
Merci à toi, Julien.
Merci.
Excuse-moi de raccourcir.
Hein. Non, mais je comprends bien.
Bonne journée, au revoir. Et bonjour à Paul.
Bonjour, Alexandre. Bonjour, Étienne Chouard. Moi, j'ai envie de commencer par une référence bibliographique, si je puis me permettre. Qui faisait écho à la dernière intervention d'Étienne Chouard concernant la représentativité démocratique. Et je renverrai tous nos auditeurs qui ça peut intéresser sur un professeur qui s'appelle Bernard Manin, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Principes du gouvernement représentatif ».
Excellent bouquin.
Voilà. Et bien, je pense que, Étienne Chouard, je crois que tu faisais écho à ce livre-là, à mon avis.
Un bouquin majeur, mais j'en parle depuis 2005. Hein,
ouais, depuis 2005. Voilà, moi je fais écho à ce bouquin livre. Parce que je trouve qu'il est, c'est un grand bouquin de... qui nous fera comprendre beaucoup de choses. Alors moi j'ai envie d'intervenir un peu de manière un peu critique par rapport à Étienne Chouard, même si je peux apprécier une vue dans, enfin un point de mire plus particulièrement. Moi je trouve qu'Étienne Chouard il a beaucoup évolué, je l'ai entendu, sauf erreur, je t'ai entendu être presque bérouiste.
Oh, oui,
enfin, je sais pas, non, peut-être pas, non, je sais pas qui tu as appelé voter aux dernières élections, je peux même te tutoyer.
Ah non.
Non, voilà. Donc, j'avais un propos relativement nuancé, relativement vertébré d'une manière un peu social-démocratisante. Alors là, tu cites Orwell et j'ai l'impression quand même, en t'écoutant, que tu as fait quand même, enfin, tu as mis beaucoup de radicalité dans tes propos et dans ta...
Oui, c'est vrai que je me radicalise.
Un petit peu, hein.
C'est vrai que je deviens plus orwellien que... En fait, Orwell cherchait une troisième voie entre le capitalisme et le communisme.
Oui, bah, il est très proche du
moraliste. Hein. Oui, je trouve que c'est un socialisme qui serait un vrai socialisme où on arriverait en fait à garder ce qu'il y a de bon dans le capitalisme mais une vraie réforme, pas social-démocrate, plus radicale que ça.
Il y a quelque chose de très bon, il y a quelque chose de bon dans le capitalisme.
Il y a quelque chose de bon dans le capitalisme. Ah. Oui, il me semble que oui, encore.
Oui, c'est aussi cette question que je voulais poser, mais enfin, je vais poser ma question. Moi, je voulais simplement marquer que j'ai vu une évolution dans ton propos, dans ta manière d'intervenir, qui était, moi, que je trouvais assez social-démocrate et qui finalement se radicalise beaucoup plus. Alors, Orwell, moi, ça me fait plaisir parce que. Moi, je renverrai aussi à Michéa, qui parle beaucoup d'Orwell et la Common Decency.
Précieux auteur que Michéa. Il faut lire le dernier livre de Michéa, l'Empire du Moindre Mal.
Voilà, l'Empire du Moindre Mal. Alors, bon, Michéa est quand même sur des positions assez anticapitalistes. Je ne crois pas qu'il soit foncièrement le défenseur de l'économie libérale et du capitalisme. Enfin, moi, je voulais à la fois, dire que tu t'étais vachement radicalisé, et moi, je trouve ça plutôt sain. Mais je comprenais pas trop encore une certaine forme de naïveté par rapport à la démocratie. J'entends pas, si tu veux, dans ce que tu dis... Cette liaison qui entre, enfin en tout cas qui insiste peut-être pas forcément beaucoup, la liaison qu'il peut y avoir entre démocratie de marché et démocratie d'opinion. Et moi je pense que toutes tes naïvetés en fait, je partage bien évidemment ce que tu peux reprocher à la démocratie, mais est-ce que tu tombes pas un peu dénu par rapport à la démocratie? Moi j'ai été militant libertaire, je ne m'attends pas beaucoup à beaucoup de choses par rapport à la démocratie, ou en tout cas moins que toi, et moi je comprends pas qu'on puisse ne comprendre que. Ce que l'opinion commune, enfin l'opinion de marché, soit sécrétée par un monde de marché. Et si tu veux, moi j'aimerais peut-être que tu insistes plus, ou peut-être que, enfin, pas que tu ouvres les yeux, mais c'est pas le propos, parce que je pense que tu les as suffisamment ouverts, que tu puisses mettre un peu le doigt sur la manière dont la démocratie de marché engendre une opinion moyenne et l'opinion commune, et finalement. Que point de salut dans cette démocratie de marché où finalement toutes les opinions se valent et où toutes peuvent s'exprimer, mais finalement toutes sont dévalorisées par le marché des opinions. Et moi je dirais que je ne vois pas de cadre, enfin de solution à ton problème d'intervention politique, même si c'est très bien que tu le fasses, mais enfin j'ai l'impression que tu t'époumones beaucoup et je pense qu'il y a beaucoup de volontarisme là-dedans, là où finalement... j'ai l'impression qu'à un moment donné, il faut plus faire appel à des forces sociales il y a une mobilisation globale et générale plus qu'à un individu. Alors c'est très bien que tu le fasses, mais enfin, il y a un moment donné où, enfin, je ne sais pas, je ne suis pas très clair, mais ce que je veux simplement dire, c'est que...
Je vais te répondre et tu vas réagir peut-être, parce que j'ai besoin de ta réaction après. Je lis énormément Onfray, et je parle avec Michel souvent, en fait, qui est un libertaire, hein, qui est un anti-libéral, libertaire.
Ouais, qui dit clairement, je te nuance ça, parce qu'il dit clairement qu'il n'est pas contre le capitalisme, mais qu'il n'est pas contre la propriété privée. Hein.
Voilà, tout à fait. Mais si tu veux, moi je découvre à 50 ans la pensée anarchiste que je croyais diabolique.
Bien sûr.
Pour moi, j'étais mal élevé, quoi. Hein, j'avais toujours lu dans les médias que communisme, que anarchisme, tout ça, c'était des diables.
Eh non.
Et en fait, maintenant que je les lis dans le texte, je m'aperçois que c'est pas si grave que ça, qu'il y a des tas de pacifistes, il y a des gens très très intelligents parmi les anarchistes et qui sont les plus doux du monde. En fait, ces gens-là réfléchissent à réduire les abus de pouvoir, résistent contre les abus de pouvoir exactement comme moi. Donc de ce point de vue, si on arrive à ne pas coller l'étiquette poseur de bombes aux anarchistes, si on arrive à imaginer que les anarchistes sont des gens qui se méfient des pouvoirs et des abus de pouvoir, on devrait tous être un peu anarchistes dans ce sens-là. Alors, sur le plan de la démocratie, impossible d'après toi.
Bah, en tout cas,
je comprends que ce point de vue, c'est-à-dire que j'ai souvent dans des discussions avec des anarchistes anciens, des gens qui réfléchissent depuis longtemps, alors que moi je suis un bisu, j'ai très souvent rencontré donc cette espèce de désespérance en disant mais regarde, on n'y est jamais arrivé depuis des milliers d'années, on n'y arrivera jamais. Et il me semble, Paul, que c'est pas parce qu'on n'y est jamais arrivé qu'on n'y arrivera jamais.
Ah mais moi je suis d'accord avec toi. Hein.
Tu vois ce que je veux dire. Et il me semble que ce que je décris, ce que je défends, c'est inédit. C'est-à-dire que dans toute la littérature, depuis Aristote, en passant par Montesquieu, Constant, Tocqueville, tout ça, je ne retrouve pas ce que je suis en train de te dire, c'est-à-dire que ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Et que le jour où on va comprendre que c'est ça le diamant noir, la source de nos impuissances politiques, elle est là. C'est-à-dire que l'important, ce n'est pas qui vote la Constitution, l'important, c'est qui écrit et surveille ensuite la Constitution. À mon avis, ça, on ne l'a jamais testé. Il y a un endroit sur Terre où il y a une constitution qui a été écrite comme ça par des étrangers, c'était des gens qui n'étaient pas jugés partis, qui n'écrivaient pas pour eux-mêmes, c'est à Athènes, il y a 2500 ans. Or, précisément, c'est la seule constitution, c'est la seule organisation politique dans laquelle, et je sais bien qu'on me renvoie souvent le fait qu'il y avait des esclaves, que la femme était...
Oui.
Faisait pas partie du peuple, que les étrangers faisaient pas partie du peuple, et que finalement, c'était pas un peuple acceptable. Je sais bien que c'était pas un peuple acceptable. Mais le peuple en question... Pour moi, c'est un autre sujet, le fait que c'était un peuple pas acceptable. Mais le fait que le peuple en question ait réussi à se protéger de façon durable, ça a duré 200 ans cette affaire, ait réussi à se protéger de façon durable des abus de pouvoir et de ce que j'appelle les voleurs de pouvoir, à l'époque ils les appelaient les oligarques, je trouve que c'est quand même une sacrée coïncidence, sacrément intéressante de s'apercevoir que ceux qui avaient écrit les règles, Dracon, puis Solon, en fait sont partis ensuite. Ils n'avaient pas écrit des règles pour eux-mêmes. Et il me semble que il y a une voie non utopique d'écrire les institutions d'une véritable démocratie, c'est-à-dire d'un véritable contrôle des pouvoirs, pas d'une démocratie d'opinion. Il ne s'agit pas qu'on décide tout le temps de tout en direct. Je ne souhaite pas ça. Je trouve que le principe représentatif, il est intéressant. Mais en ayant dit ça, je n'ai pas dit que je voulais des représentants hors contrôle. Or, je crois que les représentants eux-mêmes ne sont pas capables de prévoir leur propre contrôle. C'est trop fort, c'est trop dur. Il faudrait qu'ils écrivent des règles contre eux-mêmes. Le fait qu'ils écrivent dans une constitution dans laquelle il y a le référendum d'initiative populaire, mais ils ne le feront jamais, c'est trop contre leur intérêt personnel. Donc ce que je dis, et je crois que les anarchistes devraient s'emparer de cette idée, parce que c'est très conforme, comme une pièce de Lego qui leur manque. C'est-à-dire que pour avoir des vrais contrôles de pouvoir, il faut faire attention à qui écrit les règles du pouvoir. Et il me semble que si on arrive à écrire, à créer une assemblée constituante, honnête, désintéressée, dans laquelle les gens n'écrivent pas pour eux-mêmes, ils sont déclarés inéligibles, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus avoir le pouvoir, par le fait qu'ils ont écrit, qu'ils ont participé à l'écriture de la Constitution, mécaniquement, dans les règles, ça les interdirait de l'exercice du pouvoir ensuite. Et puis on les tirerait au sort, c'est-à-dire qu'ils ne seraient pas élus parmi les partis politiques, parce que les partis politiques sont farcis d'hommes de pouvoir, ils sont composés d'hommes de pouvoir. Donc si ce sont les hommes politiques qui désignent les candidats à l'Assemblée constituante, eh bien l'Assemblée constituante va être composée d'hommes de pouvoir. Et donc on va encore avoir des gens au pouvoir qui écrivent des règles du pouvoir, donc qui écrivent des règles pour eux-mêmes, et donc on n'en sortira pas. Donc il nous faut une Assemblée constituante dans laquelle il y a une bonne part de tirage au sort pour constituer l'Assemblée constituante, parce que tout vaut mieux plutôt que des gens qui écrivent des règles pour eux-mêmes. Eh bien, c'est pas une utopie, ça, Paul. C'est-à-dire, il me semble que c'est possible. Non, il faut juste arriver à trouver le bonhomme qui va porter ce processus constituant honnête, qui va faire attention uniquement à ça, prioritairement à ça, pour établir la première démocratie du monde, finalement. C'est pas du tout utopique, une démocratie, c'est-à-dire un régime dans lequel il y ait des représentants, il y ait des juges, il y ait des exécutifs, une séparation des pouvoirs, et où il y a des contrôles des pouvoirs. Mais ça, on l'aura que si on fait attention au processus constituant.
Paul.
C'est pas une utopie, c'est pas incompatible avec ce que tu as dit,
moi,
je crois.
Oui, moi, Étienne, si tu veux, moi, ce que je te dirais, c'est que dans ton optimisme et dans ta perspective, je dirais, d'une perspectivité de la manière dont on peut administrer le pouvoir, je la partage complètement. Moi, je suis absolument pas pessimiste. Je suis attaché à la démocratie directe. En tant que libertaire, bien évidemment, je combats de front à la fois la manière dont on a envie que les choses se représentent, enfin, la manière dont on a envie que le pouvoir soit représenté, mais aussi un système économique, en tout cas de front, et je vois pas comment on peut dissocier l'un de l'autre, et c'était surtout ça que je voulais, sur lequel je voulais attirer ton attention. Et deuxièmement, moi, puis je vais conclure, parce que tout ce que tu peux dire, je partage tout ce que tu pourrais dire, qui a rien dans mon sens, on va dire, mais j'ai pas donné de bons points, mais enfin, en tout cas, je constate une évolution saine, c'est-à-dire que je crois que la praxis politique, à un moment donné, est obligée de faire éclater aux yeux des gens la réalité du pouvoir et de son administration.
Oui,
c'est vrai. Pour conclure, moi, je sais pas si tu as lu ce bouquin, que je te conseille fortement de lire, parce qu'à mon avis,
lequel ?
C'est quelqu'un de vachement important, pour moi en tout cas, c'est quelqu'un qui s'appelle Louis Janovert.
Oui.
Et Louis Janovert a écrit un bouquin qui s'appelle « La démocratie comme science-fiction du politique ».
Excellent petit bouquin,
voilà.
Ouais.
Et moi, je suis dans cette optique-là, je suis dans une optique, on va dire, proche de Louis Janovert, et je pense que tant qu'on n'aura pas compris qu'on a changé de Dieu et qu'on se prosterne maintenant devant la ceinturne électorale, et ben je crois qu'on n'aura pas compris grand-chose. Voilà.
Ouais. D'accord,
en fait,
Paul.
Tu sais, j'ai écrit un texte, peut-être ça m'intéresse que tu me donnes ton avis là-dessus, sur la page d'accueil de mon site, donc tu fais choir sur Google.
Eh bien, j'irai voir. Ouais.
J'ai mis un texte sur le tirage au sort,
ouais.
qui réfléchit aux effets pervers de l'élection. À la façon dont l'élection est arrivée, donc pour sortir de l'ancien régime, c'était sûr que l'élection c'était mieux, on progressait. Mais en même temps, c'est une façon de désigner les représentants qui a été décidée par des élus. Et les élus ne sont pas, à mon avis, ceux qui sont légitimes pour décider si la meilleure façon de désigner les représentants, c'est l'élection ou le tirage au sort. Et tu dois être sensible comme moi au tirage au sort après avoir lu le bouquin de Manin, un plaidoyer sans le vouloir. Hein, j'ai rencontré Manin, on a passé des heures ensemble, très sympa. Mais c'est marrant parce qu'il dit ce livre l'a dépassé. Lui, il voulait faire un point honnête entre l'élection et le tirage au sort. Et ce faisant, il soutient moins le tirage au sort que moi. Depuis, il me suis pourtant alimenté de son bouquin parce qu'il a tellement bien fait le point que ça permet à chacun de faire le choix en disant ben moi je préfère du tirage au sort ou moi je préfère l'élection ou je préfère un mix entre les deux parce qu'il explique des régimes intermédiaires. Et en fait, dans ce document dans lequel j'ai fait une espèce de synthèse, donc sur le tirage au sort et sur ses effets pervers épouvantables, hein, poussant les acteurs politiques au mensonge avant l'élection, au mensonge après l'élection, poussant à la corruption, permettant aux industriels d'acheter le pouvoir, d'acheter nos hommes au pouvoir en payant leur campagne électorale et les médias qui permettent de les faire élire. Donc, après avoir constaté la constitution de castes politiciennes qui se prennent pour des surhommes jusqu'au point de décrire eux-mêmes les constitutions, donc vraiment les élections, en fait, ont des effets pervers épouvantables, et quand on regarde les inconvénients que pourrait avoir le tirage au sort, c'est-à-dire, on a peur, en fait, quoi, de désigner au sort des incompétents ou des méchants, ou des malhonnêtes, en fait, il y a des tas de rouages supplémentaires qu'on pourrait accoquiner au tirage au sort, notamment de contrôler ceux qu'on tire au sort, parce qu'on leur donnerait pas tous les pouvoirs, on leur donnerait un pouvoir contrôlé, et ce serait sur la base du volontariat, bien sûr, c'est-à-dire qu'on ne forcerait pas les gens en tirant au sort à avoir le pouvoir. Et en fait, Montesquieu soulignait que la combinaison entre la responsabilité, donc le contrôle et les punitions quand les tirés au sort déconnent, et le volontariat faisait en fait du tirage au sort, donc ainsi corrigé, une façon de désigner les représentants bien plus vertueuse que l'élection. Montesquieu l'écrivait lui-même déjà. Donc ce serait bien que tu lises ce texte.
Je vais aller voir, il y a un argument, enfin, ce que tu développais, c'est aussi un argument que j'avais qualifié sociologique, que moi je qualifierais de classiste. Effectivement, quand les gens parlent, quand les gens rédigent des choses, il faut interroger d'où ils parlent et d'où ils écrivent. Bien évidemment, la composante sociologique des gouvernements actuels, par exemple, où on voit que 80% sont des gens qui sont plutôt de profession libérale, proches du pouvoir, proches de l'argent,
ça discrédite
énormément de choses. Hein. Enfin bon, je vais aller effectivement voir tout à l'heure ton site, et puis écoute, moi ce que je peux constater, c'est une évolution que je trouve fantastique, formidable. Alors c'est peut-être pas très très objectif, ce que je peux dire, mais enfin, en tout cas, je la constate, et puis je pense qu'il faut, il faudrait que tout le monde puisse accéder à tes textes et puis au bouquin qu'on vient de citer. Voilà.
Sur le site, merci, Paul.
Paul, sur le site, va aussi faire un tour, s'il te plaît, sur le, la synthèse que je fais sur la monnaie. Ouais. Dans un billet de blog que j'appelle « Non, c'est pas trop cher ». C'est absolument passionnant, il faut lire ce truc-là et donne-moi des réactions s'il te plaît. Parce que,
ah ben il n'y a pas de problème.
En me contredisant évidemment, hein, parce qu'en fait dans la contradiction on progresse à toute vitesse, hein, mais il me semble qu'il y a une clé majeure de notre émancipation passe par la monnaie et qu'en fait la souveraineté politique découle de la souveraineté monétaire et qu'en abandonnant la souveraineté monétaire, c'est-à-dire le pouvoir de battre monnaie, et ce qui nulle part au débat, hein, comme si nos élus avaient un pacte avec ceux qui permettent de les élire, de ne de parler de tout sauf de ça, il me semble qu'en abandonnant cette prérogative fondamentale de la puissance publique, qui nous permettrait de venir à bout du chômage et de la misère, hein, c'est un enjeu absolument majeur de reprendre la création monétaire aux banques privées, il me semble qu'on récupérerait un moyen de lutte central pour permettre toutes les autres luttes sociales, qui sans ça sont condamnées à rester des gesticulations, parce que celui qui a la création monétaire, il a le pouvoir, il se fout pas mal des élections et de la prétendue démocratie. Donc j'aimerais bien savoir ce que tu penses du texte sur la
monnaie. Je dirais simplement que je m'intéresse toujours à ces questions-là, mais je dirais en forme de boutade des slogans que tant qu'il y aura de l'argent, il n'y aura jamais assez pour tout le monde. Tu vois,
c'est pas sûr ça justement. C'est pas sûr, Paul, je crois pas ça. Je crois pas. Je crois qu'il y a une façon de gérer la monnaie qui serait vertueuse, à condition qu'elle soit contrôlée, qu'elle soit pas abandonnée à la cupidité d'intérêts privés. Et le fait de la gérer politiquement, avec les contrôles de pouvoir dont je te parlais tout à l'heure, hein, avec la même suspicion du pouvoir parce qu'on sait ce qu'on a à perdre, je pense qu'il y a une évolution positive tout en gardant l'argent qui nous permet quand même un confort et une élévation spirituelle qui va avec le confort matériel.
Ouais, mais tu ne crois pas que c'est une médiation un peu douteuse que la création de la monnaie, c'est-à-dire que c'est l'apparition, enfin la monnaie n'est que l'apparition de la séparation des individus avec leur production. Et globalement, la monnaie n'est que, je ne crois pas que ce soit, comme la technique n'est pas quelque chose de neutre, en tout cas que sa progression, son élaboration, sa complexification ne relève pas de quelque chose de neutre. Elle est impulsée, elle est structurée par une tension qui est celle de l'accélération des échanges. Et comme la monnaie est une forme de séparation à chaque fois de plus en plus grande des individus avec la nature, des individus avec ce qu'ils peuvent maîtriser au quotidien. Et c'est pour ça que moi, on pourrait discuter des heures sur l'argent, mais
c'est intéressant.
Je pense simplement que l'argent, c'est la matérialisation de la séparation, des aliénations, et de la manière dont les individus sont systématiquement séparés de leur production immédiate. Alors, je ne fais pas l'éloge d'un retour à la nature ou quoi que ce soit, mais je m'interroge sur cette médiation qui, à mon avis, de l'argent comme médiation et comme symbolisation de la séparation des individus, ou en tout cas de la perte de contrôle de leur vie.
Oui, Paul, voilà. je comprends cette lecture. Hein. Elle a du sens, cette lecture de la monnaie. Mais je te promets que, enfin, il me semble que c'est pas la seule.
Non, moi, je suis ouvert à toutes les lectures et je peux.
La lecture que je te propose est inédite. C'est-à-dire que ce qui est fabuleux, ce qui donne de l'espoir, c'est qu'elle a, ça se permet de comprendre pourquoi elle te vient pas à l'esprit, c'est qu'on la connaît pas, elle est inédite. Mais on peut imaginer une production de l'argent, de la monnaie vécue comme non accumulable, c'est-à-dire que, tu sais, c'est une monnaie qui se dégrade, une monnaie fondante qui dissuade les accumulateurs, les accapareurs. Donc il y a on peut imaginer une monnaie qui soit abondante, Paul, et qui en fait permettent de se débarrasser du chômage et de la misère. Je veux dire, il faut comprendre que je sais bien que c'est jamais arrivé, que c'est arrivé que dans des petites expériences, par milliers, hein, quand même, Paul, par milliers, mais à chaque fois limitées dans le temps, parce qu'à chaque fois, les grands banquiers privés, les grandes banques centrales sont venus tuer ces expériences dans l'œuf, mais ces expériences ont montré que avec la monnaie, il y a une émancipation possible où tu donnes du travail à tout le monde, que tu peux pas. Enfin,
tu n'auras
pas besoin de revenir en arrière sur la création monétaire. On peut progresser sur même si le modèle que je te suggère est inédit, c'est-à-dire que rendre la monnaie abondante, et de façon contrôlée d'ailleurs, hein, pour qu'il n'y ait pas d'inflation.
Oui, alors c'est de l'abondantisme, hein. Alors c'est quoi, c'est du bois, Jacques Dubois, quoi.
Comment? Oui, parce... oui, du bois, absolument, enfin, précieux du bois, oui,
c'est ça, oui.
Oui, Jacques Dubois, oui.
Oui, je vois très bien. Hein.
Oui,
je vois pas les théories abondantistes. Bon, j'ai un peu un problème avec moi, je considère un peu comme des formes de planisme économique.
Mais et alors,
mais j'ai rien contre le planisme.
Le planisme indicatif, hein.
Dubois est à l'achemin entre deux. Moi, si tu veux, la solution de la troisième voie, je la conçois pas. Pour des raisons toutes bêtes, c'est que je pense que, les expériences de troisième voie, pour moi, elles sont assimilées à des expériences, assez malheureuses que je qualifierais pour moi, la troisième voie, c'est assimilé à un mouvement fasciste, des choses qui sont un peu hybrides à ce niveau-là, donc qui sont nourries, bon, c'est pour moi, ça appelle un référentiel de ce type-là. Hein. J'ai autant du mal avec le planisme qu'avec la main visible du marché, si tu veux. Je sais pas où est la solution. J'ai pas la solution clé en main.
C'est le capitalisme pur et dur. C'est l'une des voies. C'est pas la troisième, non.
Pardon.
La troisième voie, c'est pas Orwell.
Pardon.
La troisième voie, c'est pas Orwell et l'anti.
Je sais pas si Orwell se situe autour de la troisième voie. D'une certaine troisième voie ou de synthèse. Je crois que c'est un profond socialiste. Ça, c'est évident.
Oui.
Alors, Paul, il te reste une minute avant que tu sois coupé par la technique.
Je vais aller voir sur le site et puis j'essaierai de répondre en tout cas.
D'accord. Merci à toi, Paul. Au revoir.
Merci, Paul.
08 92 23 95 20 pour intervenir, et le site d'Étienne Chouard, c'est etienne.chouard.free.fr. Je vous propose une toute petite respiration musicale et on se retrouve juste après. 08 92 23 95 20 pour poser vos questions à Étienne Chouard et surtout poser vos questions concernant ce traité de Lisbonne. 08 92 23 95 20. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant au 95.2, Étienne Chouard est notre invité, c'est Sigur Rós qui nous accompagne en musique. Et pour poser vos questions à Étienne Chouard, questions et surtout critiques, pourquoi pas sur la Constitution ou sur ce que nous dit Étienne Chouard, 08 92 23 95 20, et c'est Michel qui nous rejoint.
Bonjour messieurs. Oui, mais que l'on bafoue le suffrage direct de la voix référendaire qui a dit non, pour utiliser la voie parallèle du Congrès qui dira oui, c'est une énormité, mais faudrait peut-être commencer, pour le traité constitutionnel de Lisbonne, mais faudrait peut-être commencer par le commencement, puisqu'il y a encore plus grave que ça. Le château, la base, c'est quoi? C'est la révision préalable du 4 février, qui est obligatoire de notre constitution pour s'adapter à ce traité de Lisbonne. Exemple, tous les textes sur la Nouvelle-Calédonie, qui étaient des articles constitutionnels dérogatoires et qui sont proscrits, évidemment, par Lisbonne. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, vous savez que le Conseil constitutionnel avait dit précédemment que notre Constitution était supérieure aux directives. Et comme on leur a dit, non, mais ça va pas bien, vous allez nous changer ça. Donc, on est obligé de s'incliner et de réviser la Constitution. On n'entrerait pas d'ailleurs sur le problème de la Nouvelle-Calédonie, mais donc pour autoriser par congrès aux 3/5. Mais le problème préalable, c'est qu'il existe dans notre Constitution un cas, il n'y en a pas deux, mais il y en a un, de référendum obligatoire. L'article 88.5 sur l'adhésion de tout nouvel État à l'Union européenne. Donc, supprimer cet article par congrès, alors que la voie parallèle, là, n'est pas autorisée, sans soumettre sa révision à référendum, peut rendre la révision constitutionnelle inconstitutionnelle. Là, il ne s'agit pas de trouver une voie parallèle autorisée de congrès, fut-elle d'ailleurs sur le fond vraiment tout ce qu'on a dit, un coup d'État, un coup de force, une forfaiture, nous sommes d'accord. Enfin, au sens large du terme, parce qu'au sens juridique, c'est un petit peu plus compliqué, mais de retirer une disposition de compétence exclusive du référendum au peuple, par une voie, celle du Congrès, qui n'était absolument pas prévue. Là, vraiment, on se fout du monde, plus que jamais. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Complètement d'accord, mais voilà. En fait, je suis plus révolté encore, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, je pense que c'est pas à eux de modifier la Constitution. Je pense que, mais c'est notre Constitution qui est déjà antidémocratique de ce point de vue, très profondément, c'est-à-dire que...
Oui, vous nous avez déjà exposé les assemblées constituantes et tout ça, mais ne voyez-vous pas là tout de même, sur cet article précis, que vous savez très bien qu'il est plus que sur la sellette, il doit être supprimé, et là, que l'on ne nous dise pas qu'on nous l'avait dit, on nous avait dit le contraire.
Absolument.
On nous avait dit, de toute façon, rassurez-vous, en tout cas, tout nouvel entrant, moi j'ai toujours pensé que ça nous concernait quand même, puisque j'ai toujours dit... que le projet de décret pour la ratification du premier traité lui-même du mois de mai avait été pris en référence à cet article révisé constitutionnel du mois de mars.
Ben oui, y a plein de
Il est dans le chapeau, théoriquement. Donc, ça a été bien entendu, commence par soi-même, on devait effectivement, théoriquement, utiliser le référendum obligatoirement pour nous. Enfin bon, ça pouvait encore se discuter. Mais sur l'article 85 pour les nouveaux entrants, les autres, là, puis la Croatie, ça fait pas un pli, c'est noir sur blanc. Et là, il n'avait jamais été question de modifier ça, et quant à le modifier par une voie qui n'est pas autorisée par la Constitution elle-même, qui est enfin un référendum obligatoire par le peuple, du suffrage direct, c'est une monstruosité constitutionnelle elle-même. Alors, comme disait Coluche, moi, vous déposez plainte où ? Ben d'abord, au Conseil constitutionnel. Mais enfin, là, on est effectivement dans un déni total de légitimité. Il est possible, donc, que cette révision n'ait aucune valeur.
À mon avis, elle a aucune valeur sur le plan de la légitimité politique, c'est-à-dire que ce qui est en train de se passer, la félonie qui est en train de se passer, moi je l'assimile à ce qui s'est passé en 40, et je trouve que nos hommes politiques se discréditent complètement. Je leur s'ils votent le 4, cette constitution par voie parlementaire, pour moi ce sont des traîtres, je les reconnais plus comme mes députés.
Mais là,
comme
je parlais d'abord de la révision de notre constitution.
Parce que c'est pas qu'ils vont faire le 4, hein, le 4 vous avez raison d'insister, ils vont modifier la constitution pour inclure dans notre constitution tous les prochains traités, les institutions européennes, c'est-à-dire qu'en fait, ensuite, ils n'auront plus jamais besoin de référendum.
Jamais.
Ni de modification par congrès pour valider leur cuisine entre ministres pour fabriquer de nouveaux traités. La modification de notre constitution, une espèce de cavalier qui intègre toutes les institutions européennes d'un coup dans notre constitution, est un geste majeur.
Or, la règle, là, ne souffrait pas d'exception. En ce qui concerne la révision constitutionnelle elle-même et l'adoption des traités, cela, encore une fois, en faisant du juridisme, il n'y avait pas de discussion. Encore qu'attention, au principal, c'est le référendum. Toutefois, le président peut dire « Oh ben là, on va se passer le référendum ». Mais la règle, c'est le référendum.
Mais
là, c'est pas la règle, c'est une règle absolue, le 88.5. Et comment est-ce qu'on peut retirer une disposition qui est obligatoirement référendaire, cette fois, par une voie parallèle qui n'est pas prévue ?
Je vais vous dire, par abus de pouvoir, simplement.
Voilà, nous sommes
abus
d'accord.
De pouvoir, hein. C'est exactement ce qui
c'est
se passe.
Honteux.
Absolument.
Je continue à vous écouter. Au revoir.
Au revoir, Michel.
Au revoir, Michel. 08 92 23 95 20 pour poser vos questions à Étienne Chouard, qui est encore avec nous pour quelques instants. Vos questions à Étienne Chouard et surtout vos questions concernant ce traité de Lisbonne. D'accord ou pas d'accord, intervenez. 08 92 23 95 20. Yes, Écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2, Étienne Chouard est notre invité. Étienne.chouard.free.fr, c'est son site internet. Nous accueillons Claude. Claude, bonjour.
Bonjour Alexandre et Étienne. Est-ce que Michel est encore en ligne?
Non, il est parti.
Ah, dommage. Bon, bah, écoutez Étienne, je ne vais pas revenir sur votre analyse, je trouve, et celle des auditeurs, je trouve que tout est pertinent dans les remarques qui ont été faites. Je suis moi-même un petit peu plus intéressée à la politique depuis ces histoires et je me suis un petit peu affiliée à des différents mouvements. Ce qui m'intéresse moi maintenant, c'est l'action. Et j'aimerais savoir combien on va être le 4 février à manifester. J'aimerais bien que les énergies se fédèrent un petit peu, à gauche, à droite, partout. Et puis aussi, mais peut-être que vous ne tenez pas à en parler à l'antenne, j'aimerais savoir ce qu'on va retenir dans une plainte et comment on va faire pour avoir un recours dans les plus hautes instances internationales, c'est-à-dire au niveau de la Cour de Strasbourg.
Il faut que je vous parle de ça, c'est vrai, vous avez raison. J'ai oublié de vous parler de la
Merci de la plainte. Claude pour tes questions.
Merci, je vous écoute.
Ok.
Alors, c'est vrai, vous avez raison, on a failli oublier de parler de ça alors que c'est vraiment important. Combien va être le 4 février? Je ne sais pas, j'espère qu'on sera beaucoup. Normalement, on devrait être 15 ou 16 millions de nonistes violentés. Bon, il y a ceux qui pourront pas monter parce qu'ils ont du boulot, parce qu'ils n'ont pas d'argent. Moi, je vais monter. Ça coûte cher, hein. C'est vrai que ça coûte cher, le billet, mais vraiment, ça vaut le coup. On va perdre la République. Nos députés vont détruire la République en abandonnant les pouvoirs à des institutions qui ne sont pas démocratiques. Le 4, ça va se passer vraiment. Donc, ça vaut le coup de se réunir. Il me semble qu'on devrait y être. Sur la plainte, il s'agit d'un site qui s'appelle 29mai.eu, 29 en chiffres, 29mai.eu, sur lequel un simple citoyen, comme vous et moi, un jeune juriste que j'ai rencontré plusieurs fois depuis, qui est sympathique et qui a le cerveau qui marche bien, a organisé une requête, a formulé une requête auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, pour protester contre la violation d'un droit de l'homme, celui d'avoir des élections libres pour déterminer notre corps, pour désigner notre corps législatif. Il y a dans les institutions, dans la Convention européenne des droits de l'homme, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, hein, qui est une organisation juridique à part, il y a un article 3 au protocole 1 qui dit les parties en substance, qui dit les parties contractantes s'engagent à garantir à leurs citoyens des élections libres à intervalles réguliers pour désigner le corps législatif. Or, donc ça constituerait, d'après cet article, un des droits de l'homme protégés par la Cour européenne des droits de l'homme, qui n'est pas la Cour de justice, qui n'est pas la Cour de justice européenne, donc qui est un organisme juridique à part. Et un organisme qui permet à un homme seul d'attaquer un État pour violation des droits de l'homme. Et c'est cette possibilité juridique que je trouve raisonnable, puissante, porteuse d'espoir, que je trouve fort bien argumentée, fort bien rédigée et articulée intellectuellement, que Guillaume, donc celui qui a créé cette requête, et ses deux, trois amis sur le plan informatique, nous invite à rejoindre. En deux mots, il faut que je fasse court pour qu'il y ait d'autres questions, mais c'est important. En deux mots, comment est-ce qu'on peut montrer que notre corps législatif n'est plus élu? Eh bien, il y a deux. D'abord, il faut montrer que on parle du niveau européen, parce que vous savez que aujourd'hui, dans l'état actuel, d'ores et déjà, 80% des lois nouvelles qui arrivent et qui s'imposent à nous, donc des lois, des normes juridiques, 80% de ces normes sont des transpositions automatiques de directives européennes. Donc, en fait, notre droit, le droit positif nouveau, aujourd'hui, d'ores et déjà, n'est plus national, mais européen. Donc c'est au niveau européen qu'il faut examiner si le corps législatif est encore élu ou pas. Alors, corps législatif, il y a deux niveaux. il y a le niveau constituant et le niveau ordinaire, des lois ordinaires, des directives, etc. Et au niveau constituant, la Constitution, est-ce que le niveau constituant, le plus haut niveau du droit, est écrit par des élus? Eh bien non, vous voyez bien que les traités sont écrits par des conférences intergouvernementales, donc des CIG, qui sont des organes non élus. Et finalement, les parlements qu'on consulte pour savoir s'ils disent oui ou non, finalement, sont réduits à la portion congrue, avec juste le droit à la fin de ratifier ou pas, donc le droit de dire oui ou non en bloc, sans droit d'initiative et sans droit d'amendement. Donc on voit bien que c'est plaidable. Oui, au niveau constituant, le corps législatif, pour l'essentiel, n'est plus élu. Alors il n'y a pas que le niveau constituant, il y a aussi le niveau ordinaire. J'en parlais un peu tout à l'heure quand je vous parlais des procédures législatives spéciales et des actes non législatifs, qui sont des procédures dans lesquelles la commission non élue et le conseil des ministres non élus écrivent le droit seul sur une vingtaine, plus de 20 sujets, cachés, non listés, listés nulle part, donc de façon occulte quasiment, enfin il faut vraiment chercher pour les trouver. Et ces domaines sur lesquels, ces domaines du droit ordinaire, des domaines importants, hein, je vous parlais de la concurrence, du marché intérieur, d'une bonne partie du droit fiscal, d'une bonne partie du droit social, ces domaines dans lesquels des organes non élus écrivent le droit sont encore une violation de ce droit de l'homme qui nous permet de désigner par des élections libres le corps législatif. Je trouve que c'est solide, ça se plaide. Et même pour le droit ordinaire en codécision, vous savez, le reste des normes européennes qui sont écrites ensemble par le Conseil des ministres et le Parlement ensemble, sur initiative exclusive de la Commission, je trouve que ça se tient aussi, puisque vous voyez bien que pour écrire les lois ordinaires en Europe, il faut d'abord la Commission qui est non élue et qui a l'initiative, l'exclusivité de l'initiative des lois, et qu'ensuite, au niveau de la délibération et de la décision, le Parlement, nos élus, n'ont pas la liberté de dire oui ou non ou modifier. Ils sont comme sous tutelle du Conseil des ministres qui les surveille. Et finalement, là encore, au niveau ordinaire, il me semble que c'est plaidable, c'est tout à fait défendable. Notre corps législatif n'est plus élu pour l'essentiel. Il y a encore un peu des élus, mais qui sont réduits à la portion congrue et tenus sous surveillance.
Étienne, je vais devoir vous arrêter là.
Voilà. Donc cette requête, il faut la télécharger sur le site 29p.eu, signer, la remplir la deuxième page, remplir à la fin, dater, signer, envoyer sans agrafer, et c'est même pas la peine de l'envoyer par lettre recommandée. Et vous vous associerez ainsi à la plainte collective, on est déjà plus de 800. On vous enverra un courrier comminatoire, un peu menaçant, avec un greffier qui vous dit « mais c'est hors sujet ce truc-là, vous n'y êtes pas, votre plainte n'est pas recevable ». Et est-ce que vous la maintenez? Il faudra juste envoyer un courrier pour confirmer en disant « oui, bien sûr que je maintiens, je confirme ». Et les autres instructions sont sur le site 29mai.eu. C'était important d'en parler, merci.
Tout à fait. Pensé. Merci à Claude pour sa question. Nous accueillons Bachir. Bachir, bonjour.
Oui, bonjour Alexandre, bonjour Monsieur Schwartz.
Bonjour.
Oui, j'avais une question concernant dans le traité, parce que M. Sarkozy avait parlé par rapport au truc là, pas de l'unanimité là. Il disait qu'il allait l'enlever, tout ça. Parce que c'est le truc à l'unanimité, c'est-à-dire que s'il y a un problème, il faut que tous les pays soient unanimement d'accord pour retirer ce problème.
Maintenant, ça va être à la majorité.
Là, ça va être à la majorité, ils ont dit.
Il n'y aura plus de droit de veto, c'est-à-dire qu'en fait, la souveraineté nationale disparaît là, vraiment, oui.
Ah, d'accord.
C'est-à-dire que si on n'a plus le droit de veto, un groupe de pays peut nous imposer une norme qu'on trouve contraire à nos intérêts, sans qu'on puisse résister, puisque c'est à la majorité. Effectivement, c'est un recul majeur.
D'accord, donc ils peuvent très bien faire à un moment donné, favoriser certains pays au détriment de l'autre, et puis les autres, faire tourner un peu la sauce pour que personne ne soit favorisé à chaque fois, quoi.
Oui.
C'est quand même un truc monstrueux, quoi. De toute façon, j'avais
dit. Ce sont des raisons de s'indigner dans ces institutions, il y en a à l'appel.
C'est
impressionnant. Des raisons de s'indigner, mais gravement, hein, je veux dire. Et elles se multiplient. Enfin, je veux dire, en fait, c'est pour ça, moi, que je me radicalise. C'est parce que plus on s'aperçoit, plus on s'informe, plus on s'aperçoit des trahisons, des félonies de nos propres représentants. Mais des vrais, enfin, je veux dire, c'est objectif, c'est factuel. Et c'est vrai que tant qu'on s'en occupe pas, on n'est pas inquiet, donc on est serein. Mais dès qu'on s'en occupe, c'est révoltant, quoi.
Et on voit que là, les médias sont vraiment complices, quoi. Hein,
ouais.
Parce qu'on entend.
Ils sont largement achetés par des
multinationales. Ils sont pour ça que les gros
achetés par des banquiers.
Les gros patrons, tout ça, ils achètent tout, quoi. Enfin,
Mais c'est formidable pour eux. Mais mettez-vous à la place des patrons et des banquiers. Attendez, vous avez les médias, vous avez la fabrique de l'opinion publique. C'est fabuleux pour eux. Ils n'achètent pas les médias pour gagner de l'argent, évidemment, ils en perdent. Non, non, ils achètent les médias pour des raisons scandaleuses. Je veux dire, la Constitution devrait l'interdire, évidemment, au plus haut niveau du droit. Les entreprises ne devraient pas pouvoir acheter des médias. C'est évident, évident, évident.
Bachir, merci pour ta question.
Oui, allez, merci.
Et bonne journée.
Bonne journée.
Bonjour à Alain.
Oui, bonjour. Alors, je vous remercie. J'enchaîne sur cette dernière question. Les multinationales n'ont même pas besoin d'acheter les médias pour faire leur propagande. De toute façon, c'est dans l'air du temps. Il y a le politiquement correct qui travaille la société depuis une vingtaine d'années sur ce sujet. Donc, l'idée du complot obsessionnel et paranoïaque des patrons du capitalisme, c'est même pas la peine de l'évoquer parce que c'est les médias eux-mêmes, les journalistes eux-mêmes n'ont même pas besoin d'être achetés pour faire pour projeter cette idée européenne. Mais pourquoi ? Parce que le français, comme les autres Européens, ils sont schizophrènes. Ils sont peut-être pour leur indépendance, mais quand ils voient un t-shirt chinois à 1 euro ou des paires de chaussures à 1 euro, ils ont vite fait leur choix. Donc il faudrait, pour accepter de contrer cette propagande, il faudrait leur prouver que finalement on peut fabriquer aussi bien et aussi facilement un certain nombre de biens marchands pour la même somme, 1 euro, avec le progrès technique et sans faire appel à la mondialisation, parce que l'Europe, c'est une chose, mais c'est dépassé par la mondialisation. C'est fini l'Europe, c'est terminé. Ça, on perd son temps. On perd son temps dans l'histoire de traités, dans l'histoire de querelles de traités. Il faudrait plutôt ne plus perdre son temps sur la mondialisation. Moi, je crois que c'est ça le vrai problème. Maintenant, c'est fini, c'est du passé. Ça, c'est des vieilles, c'est des combats d'arrière-garde. Aujourd'hui, tant que on sera schizophrène, c'est-à-dire qu'on veut notre bien matériel égoïstement, puis d'un autre côté, on veut un idéal de liberté, eh bien, le conflit aura toujours lieu.
Alain ?
Voilà.
Alain, ça m'étonne que vous disiez que la mondialisation s'impose et que l'Europe ne sert plus à rien, parce que vous savez que les échanges économiques entre l'Europe et le reste du monde sont très peu importants, c'est moins de 10%. Et en fait, on aurait en Europe largement de quoi atteindre la taille critique d'un marché autonome et suffisant, avec quelques échanges à l'extérieur, mais pas grand-chose, et avec un protectionnisme intelligent, un protectionnisme raisonnable, en acceptant d'échanger uniquement avec des gens qui nous ressemblent, qui sont comparables, qui jouent les mêmes règles du jeu, c'est-à-dire qui ont des règles sociales comparables, qui donne à l'entreprise des contraintes environnementales comparables, des contraintes fiscales comparables, au lieu de nous mettre en compétition avec des gens qui ne jouent pas le jeu, qui n'ont ni règles sociales, ni règles environnementales, ni règles fiscales. Et ça paraît pas du tout impossible. Vous faites comme si, mais c'est peut-être transitoire dans votre réflexion, mais vous faites comme si la mondialisation était une fatalité.
Oui.
Mais je crois pas du tout. Je crois pas du tout. Elle est organisée par des entreprises qui ont besoin de cette mondialisation pour faire de nos corps une marchandise dans le grand supermarché du travail, supermarché mondial. Mais ça, c'est l'intérêt des multinationales. Mais moi, je ne confonds pas l'intérêt des multinationales avec l'intérêt général. Je suis pas sûr du tout que la mondialisation, la libre circulation des capitaux, la libre circulation des marchandises soit un bien ni une fatalité.
C'est pas un bien, mais c'est une fatalité.
Pourquoi ?
Ça va être le progrès technique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des ondes électromagnétiques qui se propagent à la vitesse de la lumière et que les informations aussi, eh bien, les corps, les biens, les matériels, la pensée, tout ça, ça va se matérialiser.
Mais la pensée peut bien circuler sans que les capitaux circulent aussi librement quand même.
Vous allez empêcher des ondes électromagnétiques. Parce que qu'est-ce que c'est que des capitaux ? On appuie sur un clic de souris avec des contrôles, c'est tout. Les capitaux, c'est pas de l'argent sonnant et trébuchant.
Non, mais donc, ça, c'est tout à fait contrôlable.
Preuve, la Société Générale, c'est pas contrôlable du tout.
Non, mais ça n'est plus contrôlable, parce qu'on a un État qui a renoncé à contrôler.
On ne peut pas contrôler.
Mais je ne sais pas.
Vous niez le progrès, mais vous êtes vraiment des sciences de l'informatique et des télécommunications. Si vous plongez dans ce milieu qui manque à un certain nombre de nos dirigeants, eh bien, si vous plongez dans ce milieu scientifique, vous vous apercevez que tout est complètement interconnecté et la mondialisation, c'est pas un problème moral, c'est pas un problème scientifique. Et tant qu'on n'aura pas vu ça, eh bien, on n'y arrivera pas. Il faut d'abord approfondir ce problème scientifique, faire le constat et ne pas porter de jugement moral immédiatement, c'est bien, c'est mal. C'est un fait, c'est ni bien ni mal. Le fait de pouvoir téléphoner à des milliards de kilomètres sans payer presque rien parce qu'on ne paye pas l'onde électromagnétique qui se propage, Les neutrons, c'est gratuit. Les protons, c'est gratuit. Les électrons, c'est gratuit. Eh bien, écoutez, vous n'empêcherez pas la circulation de la pensée, la circulation des capitaux. Les capitaux, c'est des lignes d'écriture sur un ordinateur.
Oui, mais il y a des lignes autorisées, des lignes illégales quand même.
Qui les autorisées? Qui est-ce que vous êtes capable d'autoriser des lignes d'écriture?
Ben, enfin, quand même, toute la vérification des comptabilités, la comptabilité des entreprises sert à ça. C'est pas parce que c'est possible que c'est légal et bon. Heureusement, on n'autorise pas
mais
tout.
Vous n'y connaissez rien là-dedans. Hein. Alors moi, je n'y connais pas grand-chose, mais je vous assure que si vous interrogez les milieux, notamment les histoires de la Société Générale, les traders, les hackers, les gens qui pénètrent dans les systèmes informatiques avec une... Je ne dis pas avec facilité, ils sont quand même des gens qui passent des années hein, pour travailler la question, ils sont des drogués de ça. Mais pénétrer dans ces milieux, vous verrez que les contrôles, c'est illusoire. D'ailleurs, je vous dis, l'histoire de la Société Générale, on ne sait pas encore la fin fond des choses, mais ce n'est pas un problème de capitalisme, de paranoïaque obsessionnel anticapitaliste. C'est un problème technique.
D'accord.
Voilà, je ne partage pas votre résignation. je rêve encore, mais je sais peut-être, vous avez raison, peut-être moi qui me trompe, hein, mais je rêve encore d'un contrôle des pouvoirs malgré l'électronisation de nos échanges.
Moi aussi, j'aurais bien rêvé, mais je vous assure, pénétrer dans ces structures, dans ces milieux des télécommunications, je vous assure qu'on n'a rien vu encore. Voilà.
Merci Alain pour ton intervention.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant 95.2. Nous sommes avec Étienne Chouard. Nous parlons du traité de Lisbonne qui a été appelé au tout début mini-traité. Vous posez vos questions concernant ce traité à Étienne Chouard. Vous réagissez aux propos tenus sur cette antenne. Vous n'êtes pas forcé d'être d'accord avec lui pour intervenir. Loin de là, le numéro pour nous joindre, c'est le 08 92 23 95 20. Écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2, Étienne Chouard est aujourd'hui notre invité, vous lui posez vos questions, mais c'est maintenant terminé, nous allons arriver à la conclusion de cette émission. Je vous rappelle le site internet d'Étienne, un site participatif, vous pouvez participer donc à un forum, il y a vraiment moyen de donner votre opinion, que vous soyez d'accord ou non, c'est ce qui est intéressant évidemment, et c'est pour ça qu'Étienne Chouard se prête au jeu des questions sur l'antenne depuis 1h30 maintenant, c'est etienne.chouard.free.fr, etienne.chouard.free.fr. Alors Étienne, en guise de conclusion, je pourrais vous demander peut-être juste de nous rappeler en quelques points ce qui vous choque le plus dans ce traité de Lisbonne, sans redétailler tout ce que vous avez dit au début de cette émission, et puis après je vous laisse évidemment la parole librement.
Alors ouais, bon, pour résumer ce qu'il y a d'insupportable et d'infâme dans ces institutions européennes, il faut donc citer la faiblesse du Parlement, la confusion des pouvoirs dans les mains de l'exécutif qui s'est arrogé le pouvoir d'écrire des lois sans Parlement sur des domaines qu'il n'a même pas le courage d'avouer publiquement à travers les procédures législatives spéciales et les actes non législatifs. La dépendance des juges hyper puissants et qui sont sous le contrôle des exécutifs, ce qui verrouille l'appareil institutionnel qui permet aux exécutifs de s'affranchir de tout contrôle, finalement, à l'occasion des institutions, de la construction des institutions européennes. Le non-contrôle des pouvoirs généralisés, c'est-à-dire l'irresponsabilité des acteurs, complètement extravagant, que personne ne rende des comptes dans ces institutions. L'impuissance politique des citoyens, le fait qu'on n'ait pas de référendum d'initiative populaire, donc on n'ait aucun moyen de contrôle. Les révisions constitutionnelles chèque en blanc qui permettent aux hommes au pouvoir de réviser à tout moment les institutions sans nous consulter. Et ce qui va se faire le 4 février, c'est bien l'inclusion dans notre constitution d'un cavalier qui intègre les institutions européennes dans notre constitution, ce qui résout à l'avance tous les prochains conflits constitutionnels et finalement fait sauter d'un coup la protection de notre constitution par rapport à tous les coups d'État que nous préparent nos exécutifs. et puis surtout le sabordage monétaire, le harakiri monétaire qui consiste non seulement à donner comme mission à la Banque centrale indépendante, totalement indépendante, à lui donner comme mission la lutte contre l'inflation qui se paye forcément de chômage, et ce qui veut dire que ces institutions nous condamnent au chômage, ce chômage qui est si formidable pour les banquiers et les industriels, parce que ça rend docile tout le monde, le chômage. Plus personne ne peut lutter quand il y a le risque du chômage. C'est formidable pour les tyrans, le chômage. Et le fait que le chômage soit imposé au plus haut niveau du droit par une lutte contre l'inflation qui ne protège que les banquiers, et dont les travailleurs n'ont que faire, ça, c'est vraiment le bis du bout de la marne. Et l'abandon par l'article 104 de Maastricht, qui est devenu l'article 123 de Lisbonne, l'abandon de la création monétaire aux banques privées et le fait que les États s'imposent de payer des intérêts à tout propos pour toutes nos dépenses, ce qui génère depuis 73 une dette qui va croissant jusqu'au fait de nous asphyxier complètement. Les politiques publiques ne sont plus possibles parce qu'on est ruiné financièrement et le chômage ne fait que monter depuis que cette création monétaire a été abandonnée. Tout ça devrait déclencher chez les citoyens un rejet viscéral, profond, massif, important, quoi, hein, de tous les salariés, quoi, hein, qui voient bien que, en fait, ces institutions sont un moyen de nous priver du moyen de lutter pour nos salaires, puisque c'est ça qui est en jeu. Moi, je suis en train de découvrir que les banques, en fait, l'obsession des banques, c'est nos salaires, et que c'est cette obsession des salaires qui les a amenés à détruire la République à travers la Deuxième Guerre mondiale, à travers l'ennemi construit par les banquiers et les industriels pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça a pas marché, la République a résisté. Et bien, ils reviennent avec un autre moyen qui sont les institutions européennes, mais qui revient au même, finalement, à nous priver des institutions démocratiques qui nous permettraient de résister aux abus de pouvoir et qui mettent nos élus sous contrôle des plus riches et des rentiers. Annie Lacroix-Rise a raison de souligner que, en fait, il n'y a rien à attendre de nos élus qui doivent leur élection aux riches qui ont financé leur campagne électorale ou qui se sont appropriés les médias qui permettent de les élire, qui permettent de faire leur campagne électorale. Il n'y a plus grand-chose à attendre des élus qui, en fait, ne se battront jamais sur l'essentiel et ne nous protégeront jamais comme il faut. Ils le montrent depuis des décennies. Et en fait, c'est seulement la mobilisation générale, la grève générale, comme en 36, comme en 68. C'est Annie Lacroix-Rise souligne que la grève générale, la mobilisation générale, ça par contre, ils craignent, quoi. Hein, je veux dire, si on se bougeait, ça changerait. Et c'est vrai que là, pour l'instant, on dirait que les gens sont éteints. Bon, mais c'est vrai qu'en juin 89, les gens étaient pas révolutionnaires encore, hein, et que finalement, c'est venu d'un coup. Bon, on peut espérer que on se réveillera, mais là, c'est vraiment très, très engagé, quoi. On est mal barré, hein. Vraiment, les institutions, tout le monde a l'air de s'en foutre. Le 4 février, on va nous violer. Je sais pas si on sera nombreux le 4 février. Ce serait bien qu'on soit nombreux à protester.
Ce sera où, d'ailleurs? C'est
comment? C'est à Versailles, hein.
C'est à Versailles, ouais.
C'est à Versailles. Le 4 février, il faut être à Versailles. Il faut chercher un peu où sont organisés les points de rendez-vous. On pourrait y aller avec des sabots, avec des bonnets phrygiens qui symbolisaient la liberté, et puis des fourches en plastique. Enfin, je sais pas,
mais en plastique, les fourches.
Pour montrer qu'on est en colère, quoi. Hein.
On précise, en plastique, les fourches.
Oui, en plastique, parce que sinon, la maréchaussée va pas aimer, on pourrait comprendre.
Ouais, c'est clair. Étienne Chorm, merci beaucoup.
Merci
pour toutes ces, surtout pour cette interaction avec les auditeurs.
Ouais,
c'est intéressant de se prêter au jeu, surtout que vous ne saviez pas à chaque fois quelles allaient être les questions.
Ouais,
c'est là que c'est intéressant. Et on rappelle votre site internet, Étienne.
Il suffit de taper Chouard sur Google, vous tapez C-H-O-U-A-R-D sur Google et vous arrivez au bon endroit.
Merci.
Sur n'importe quel moteur de recherche, ça marche.
Merci beaucoup et à très bientôt.
Merci à vous, au revoir.
Au revoir. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2. Quelques informations à vous donner, à vous lire, concernant notre société et concernant le marché de la culture. J'aimerais qu'on en parle juste après. Juste avant, D'abord, sachez que le marché du disque en France affiche des chiffres négatifs pour la cinquième année consécutive. Ce 2007 révèle une baisse de 17,4% en valeur et de 24% en volume. Nombre d'unités single, albums et vidéos par rapport à 2006. Ces résultats ont été communiqués aujourd'hui par le syndicat national de l'édition phonographique, la SNEP, au MIDEM à Cannes. Le chiffre d'affaires du disque est de 712,9 millions d'euros, 662 millions pour les albums single et DVD, moins 19,2% et 50,8 millions pour le marché numérique, internet et téléphonie mobile, plus 16,6 chiffre hors TVA à 19,6. Si le téléchargement légal est en progression de 26,1% par rapport à 2006, les ventes en magasin représentent toujours près de 98% du chiffre d'affaires. A contrario, le téléchargement légal sera en progression sur les autres grands marchés mondiaux, États-Unis, Japon, Royaume-Uni. Un rapport de l'International Fédération Phonographique Industrie, IFPI, souligne que 10 milliards de fichiers musicaux illégaux auraient été téléchargés dans le monde en 2007, soit un ratio de 20 illégaux pour un titre légal. Christine Albanel, ministre de la Culture, a annoncé que la loi anti-piratage des œuvres culturelles sur Internet serait déposée au Sénat au tout début du printemps. Quand je lis différentes réactions à cet article, l'article du Monde, on lit, entre autres, hein, le CD c'est fini et on ne le conserve que dans l'intérêt de la filière de fabrication, ça finira par craquer. Et c'est vrai qu'on peut se demander quel est l'avenir du CD. Alors, on continue avec l'idée de la licence globale et cette interview, ou plutôt ces quelques mots de Madame Christine Albanel, qui a dénoncé le système de licence globale préconisé par la Commission pour la libération de la croissance française, présidée par Jacques Attali, dans son rapport remis au président de la République le 23 janvier dernier. En revanche, la ministre de la Culture a réaffirmé son soutien au nouveau modèle économique qui émerge actuellement sur le marché de la musique et confirmé que les conclusions de la mission Oliven donneraient bien naissance à un projet de loi qui sera soumis au vote de l'Assemblée avant l'été. Évincé des débats occasionnés par le vote de la loi d'Avzi, le principe de la licence globale suppose de faire verser par les fournisseurs d'accès à Internet une contribution aux ayants droit auprès des différentes sociétés de gestion collective de droits d'auteur sous la forme d'une rémunération assise sur le volume global d'échanges de fichiers vidéo ou musicaux, explique la commission Attali. Cette proposition n'a fait l'objet d'aucune concertation préalable avec mon ministère, ni, que je sache, avec les professionnels, a déclaré Christine Albanel. Je proposerai donc au président de la République de ne pas retenir cette proposition, dont la simplicité a pu séduire dans un contexte où l'offre légale était déficiente, mais qui apparaît désormais en décalage total avec le dynamisme dont font preuve les acteurs économiques. La licence globale, en revanche, ne manquerait pas de décourager ses efforts d'adaptation, d'innovation et d'amélioration de l'offre légale. En effet, la rémunération ne serait plus liée aux stratégies qualitatives et quantitatives portant sur les contenus, mais au nombre d'abonnés des fournisseurs d'accès à Internet, encore estimé Christine Albanel. Officiellement, le ministère de la Culture campe donc sur ses positions construites par la commission Oliven, qui préconise quant à elle de ne pas facturer les fournisseurs d'accès à Internet, mais de les impliquer plus étroitement dans la lutte contre le piratage sous l'égide d'une autorité administrative indépendante qu'Albanel propose de baptiser Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet. Les modèles économiques tels que les offres d'abonnement proposées par Orange, 9CGTel et Free, certaines plateformes de téléchargement ou des sites comme Deezer.com devraient en revanche être encouragés dans la mesure où ils résultent d'accords exemplaires, librement négociés entre tous les partenaires de la culture et de l'Internet, et les amateurs de musique y trouvent parfaitement leur compte, apprend-on dans cet article. Un avant-projet de loi relatif au téléchargement illégal et à cette future autorité est déjà en cours de rédaction, encore indiqué la ministre. Ce calendrier accéléré devrait permettre de déposer le projet de loi après son examen au Conseil d'État sur le bureau du Sénat au tout début du printemps. Le Parlement disposera ainsi de tout le temps nécessaire pour en débattre sereinement en vue de son adoption avant l'été. Voilà, c'était voilà pour cet article donc que j'ai pu trouver sur le site de Clubic. Et c'était vraiment les derniers à se rendre compte qu'il se passait quelque chose du côté d'Internet. En même temps, les internautes ont toujours un pion d'avance sur la législation. On va voir ce qui va se passer, mais cette licence globale, ce serait quand même bien d'y réfléchir plus longtemps et de pas la mettre de côté à chaque fois. Je tenais à vous lire ces informations parce que on peut se poser de grosses questions concernant la culture par rapport à aux nouvelles technologies amenées par Internet et avec la facilité de trouver des œuvres. Il y a des questions à se poser et la licence globale fait peut-être partie de ces questions qu'on doit se poser. J'aimerais maintenant m'arrêter sur un sujet qui me parle particulièrement. Il s'agit de la possession artistique et de ce que devient une œuvre d'art lorsqu'elle a été créée. C'est de l'actualité, c'est pas de l'actualité. Le débat avec Étienne Chouard a duré très longtemps, donc j'aurai beaucoup moins de temps pour le traiter que prévu. Mais je voudrais quand même vous en dire deux mots. J'ai lu il y a quelques années un livre passionnant, je trouve, de Paul Auster, qui s'appelle Le Livre des Illusions. Je vous lis le résumé. Après la mort de sa femme et de ses enfants, David Zimmer était anéanti. S'il a pu échapper au désespoir, c'est grâce à l'écriture d'un livre consacré à Hector Mann, virtuose du cinéma muet, porté disparu depuis 1929. Un soir, une jeune femme débarque chez lui en lui annonçant que Hector Mann lui-même le réclame de toute urgence sur son lit de mort. David se laisse alors entraîner dans un très long voyage. Voilà le résumé de ce livre de Paul Auster. En fait, ce long voyage arrive à se poser la question de savoir ce que doit devenir une œuvre d'art et surtout si son créateur, considéré dans ce cas-là pour un génie, a tous les droits sur cette œuvre d'art. Est-ce qu'il a le droit de les brûler? Est-ce qu'il a le droit de les faire disparaître? Est-ce qu'il a le droit de ne les montrer qu'à une dizaine de personnes? A-t-il ce droit, cet artiste, ce créateur, de jouir seul de ses œuvres? C'est une question qu'on peut se poser dans cet excellent livre que je ne peux que vous conseiller, ce livre donc de Paul Auster qui s'intitule Le Livre des Illusions, qui existe au format poche, hein, si vous voulez vous le procurer. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de cela? Eh bien, parce que ce livre m'avait marqué et que j'ai lu hier sur U89 un petit article, enfin pas petit article, un article, pourquoi l'abaisser comme cela, qui s'intitule « Le fils de Nabokov va-t-il brûler un manuscrit de l'auteur de Lolita ?» C'est un article assez long, mais je vais prendre le temps de vous le lire parce que je le trouve vraiment très intéressant. C'est un article de Ron Rosenbaum pour Slate.com. Voilà cet article. « Voici l'un des dilemmes les plus troublants de la littérature contemporaine. » Il s'agit de savoir si le dernier manuscrit non publié de Vladimir Nabokov, qui repose sans avoir été lu dans un coffre d'une banque suisse, doit être détruit comme l'auteur de Lolita l'a lui-même explicitement demandé dans ses dernières volontés avant sa mort en 1977. C'est une décision qui repose sur les épaules de son seul héritier et traducteur en vie, Dimitri Nabokov, qui est aujourd'hui âgé de 73 ans. Dimitri est partagé depuis des années entre l'exigence sans équivoque de son père et la demande du monde littéraire de pouvoir lire le dernier produit du génie de son père, un manuscrit connu sous le nom de The Original of Laura. Dimitri doit-il défier la demande de son père au nom de la postérité ? Au cours des deux dernières années, j'ai été associé à cette question dans une correspondance suivie par courrier et par email avec Dimitri Nabokov. Un récent courrier de Dimitri me laisse à penser qu'une décision est proche. Il est temps pour moi de partager ce dilemme avec vous, lecteurs, et de vous demander votre avis. Le dilemme de Dimitri va au-delà de Laura. Il porte sur la question de savoir qui possède une œuvre d'art, surtout une œuvre inachevée d'un auteur mort qui ne voulait surtout pas que ce travail soit rendu public. Qui contrôle son destin? La main aujourd'hui dans la tombe? Ou les lecteurs, critiques et biographes passionnés, trop passionnés peut-être, qui veulent mettre la main dessus quel qu'en soit l'état d'achèvement. Le brûler ou pas? On ne peut pas éternellement tourner autour de la question. L'enjeu est important. Certains propos récents de Dimitri montrent qu'il ne s'agit pas seulement d'un tas de papier. Il l'a qualifié de la plus grande concentration de la créativité de mon père. Le produit du plus grand, au moins du plus complexe des écrivains des 100 dernières années, qui nous permettrait de revisiter son travail sous un autre angle. D'un autre côté, Dimitri a également déclaré que Laura aurait été un livre brillant, original, radical, dans un sens littéraire, comparé au reste de son œuvre, ce qui est différent de parler de concentration de sa créativité. Il suggère une révélation. Nous ne saurons peut-être jamais ce que nous savons, c'est que Laura est composée de 50 grandes fiches cartonnées écrites de la main de Nabokov. Dimitri a indiqué par le passé que cela correspondait à environ une trentaine de pages classiques manuscrites. Le recours aux fiches cartonnées ne surprendra pas ceux qui sont familiers de l'œuvre de Nabokov, mais quoi qu'il en soit, l'auteur a explicitement demandé avant sa mort en 1977 que ces fiches soient détruites. À l'époque, cette tâche incombait à son épouse adorée, Vera. Mais, pour une raison ou une autre, elle n'avait toujours pas fait de bûcher à sa propre disparition en 1991. Cette sinistre tâche échut donc entre les mains de Dimitri, un défenseur farouche de la mémoire de son père, face à ceux, qui font ce qu'il estime être de fausses interprétations de son travail. Et c'est ce risque de mauvaise interprétation qui semble être au cœur des hésitations sur le sort de Laura. Lorsque j'ai demandé il y a 2 ans à Dimitri ses intentions à propos de Laura, il m'a répondu qu'il était tenté de brûler le manuscrit en raison de l'état lamentable de la lolitologie. À l'époque, je pensais qu'il se référait à la controverse qui avait accompagné la découverte à Berlin d'une nouvelle obscure de 1916 qui avait fait crier certains au plagiat par Nabokov avec son Lolita 40 ans plus tard. J'avais alors publié un article dans le New York Observer suppliant Dimitri de ne pas brûler le manuscrit au nom du plaisir qu'il pourrait susciter à des gens comme moi. Cet article avait fait tant de bruit que Dimitri avait dû faire savoir qu'il n'avait pas encore pris sa décision. Une fois la polémique retombée, j'ai commencé à me poser la question du point de vue de Dimitri et non du mien. Un dilemme shakespearien, un peu comme le fantôme dans Hamlet qui lui demande de respecter un pacte fait dans le sang. Dimitri doit accomplir le dernier acte d'un puriste dans l'histoire littéraire, un homme qui aurait souffert de voir publier une œuvre inachevée ou déformée. Un spécialiste de Nabokov, le professeur Abraham Socher de l'université au Berlin, a attiré mon attention sur une citation de Vladimir Nabokov dans son premier roman en anglais, The Real Life of Sebastian Knight, décrivant un écrivain qui lui ressemble comme ce genre assez rare d'auteur qui sait que rien d'autre ne doit rester que la perfection. Le sentiment de Nabokov importe-t-il vu qu'il a disparu depuis si longtemps? Ne devons-nous aucun respect à ses dernières volontés parce que nous désirons ardemment avoir la clé de son œuvre ou tout simplement en avoir plus pour nos motivations égoïstes? C'est dans ce contexte que Dimitri m'a fait parvenir une interview qu'il a accordée au site Nabokov Online, dans laquelle il souligne que s'il n'a toujours pas pris sa décision, il se veut protecteur vis-à-vis de Laura, en raison de l'attitude de ceux qui, estime-t-il, se trompent dans leurs analyses psychologiques de Lolita, l'œuvre la plus célèbre de Nabokov. Il s'en prend en particulier à certains critiques qui, à la lecture de Lolita, ont pu conclure que Vladimir Nabokov avait lui-même été victime d'abus sexuels dans sa jeunesse. Ce souci de protéger Laura de nouvelles interprétations saugrenues de la part des lolitologistes le conduit à obéir à son père et à détruire le manuscrit. Dimitri, avec tout le respect que je vous dois, il est temps de prendre une décision. Dites-nous tout ce que vous voulez nous dire à propos de Laura, y compris le véritable titre du livre. Pourquoi vous pensez que c'est une telle concentration de la créativité de votre père? Ou donnez-nous Laura, pour que nous nous fassions une opinion nous-mêmes. Ou dites-nous que vous allez préserver le mystère pour l'éternité en détruisant ce travail. Mais mettez fin à ce teasing. Il est temps de jouer carte sur table, Dimitri. C'est un article de Ron Rosenbaum pour Slate.com qui est repris sur le site Rue 89 d'hier et qui nous fait nous poser la question de l'appartenance d'une œuvre d'art lorsqu'un auteur a disparu. Est-ce qu'un auteur écrit lui-même son œuvre? Est-ce qu'un auteur est guidé par une force qui lui permet d'écrire, de remplir des pages. Jour après jour, nuit après nuit, il écrit, ça vient. Mais alors qu'est-ce qui l'inspire? Son cerveau ou quelque chose de supérieur? Est-ce que cette œuvre reste toujours la possession de l'auteur lorsqu'il a disparu? Je ne parle pas de droit, je parle de l'œuvre. Est-ce que Dimitri, qui doit respecter les dernières volontés de son père, est-ce que Dimitri, enfin l'héritier pardon de Nabokov, est-ce qu'il doit lui brûler, comme son père le voulait, ce manuscrit, ce dernier manuscrit, ou est-ce qu'il doit le garder et le faire connaître? Je trouve la question passionnante. Voilà pourquoi je vous parlais donc de ce livre de Paul Auster, le livre des illusions, qui reprend exactement ce thème-là. C'est un débat assez long que je souhaitais avoir avec vous aujourd'hui. Il nous reste une quinzaine de minutes à passer ensemble, donc pour réagir à ce sujet et peut-être apporter vos premières idées, vous pouvez composer le numéro de la radio qui est le 08 92 23 95 20. On est ensemble, oui, c'est ça, pendant une quinzaine de minutes. Sinon, ce sujet, nous le reprendrons, pourquoi pas une nuit ou une autre après-midi. C'est la place de l'art dans notre société, c'est la place de l'œuvre d'art après la disparition de son auteur. Qu'en pensez-vous? Brûler ou pas cette œuvre de Nabokov? 08 92 23 95 20. nous accueillons Elisabeth.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tout le monde. Alors, bon, sur ce problème, je voudrais quand même revenir à deux précédents diamétralement opposés. Alors, quand on visite la maison de Mallarmé, on nous montre bien le cabinet où il cachait tous ses papiers. Et avant de mourir, il a prescrit qu'on détruise une partie de ce qu'il avait écrit, qu'il considérait comme inachevé. Et les héritiers qui étaient absolument obéissants aux dernières volontés de Mallarmé ont brûlé une partie des papiers de Mallarmé, qui n'étaient pas seulement des brouillons. Hein, il y avait dedans des poèmes qu'il considérait comme pas achevés, comme pas parfaits. Or, il faut quand même comprendre que dans l'esthétique de Mallarmé, et dans ses positions poétiques, il fallait que l'œuvre d'art soit parfaite. Bon. Donc, quelque chose d'inachevé, quelque chose de bien à 90%, pour lui, c'était rien. Donc, c'était tout à fait logique qu'on brûle ses papiers. Alors, maintenant, je vais prendre le cas absolument inverse, qui est le cas de Kafka. Kafka envoyait ses œuvres à un de ses amis en lui recommandant de tout détruire, à sa mort, de tout détruire. Bon. Or, si vous regardez l'œuvre de Kafka, ce qui est vraiment clamé dans l'œuvre de Kafka, c'est l'échec, c'est l'inachèvement, c'est le fait qu'on attend devant la porte de la perfection et qu'on n'entre jamais. Bon. Donc, en fait, si vous regardez l'œuvre de Kafka, évidemment, lui, il a dit « il faut tout brûler », parce que c'est un échec. Mais si vous regardez l'esprit de son œuvre, après tout, c'était pas stupide de garder ce qu'il a écrit.
Alors, Elisabeth, ça veut dire, dans ce que tu nous dis, hein, ça veut dire qu'on se doit de réfléchir déjà à ce qu'était la pensée de l'auteur,
oui,
pour bien comprendre, après sa mort, ce qu'on peut faire de ses œuvres. C'est-à-dire qu'on se donne le droit, nous, d'intellectualiser ce qu'il aurait... que nous devons faire par rapport à ce qu'il a écrit.
Non, pas tout à fait. On peut le lire. On peut lire quand même ce qu'écrit un auteur. Et quand même, on n'est pas quand même idiot. On peut le lire avec une herméneutique honnête, je dirais intègre.
Mmh. Mais alors, à qui appartient cette œuvre ?
Je pense que si on le lit de façon intègre, je ne dis pas qu'on ne fera pas de fautes, mais je veux dire qu'on évitera peut-être des fautes à 80%.
Mais à qui appartient cette œuvre, une fois que... Alors là, on parle d'auteur connu.
Alors, l'appartenance de l'œuvre, par contre, là, j'ai des positions qui sont tout à fait radicales.
Voilà, parce que, voilà, là, parce par que exemple, pour cet auteur...
Alors là, vraiment, j'ai des positions absolument radicales,
oui.
Pour des raisons, j'allais dire, pour des raisons à la fois personnelles, et parce que j'ai quand même fait une petite recherche sur ce qu'on a fait, par exemple, la fameuse appartenance du public, l'œuvre appartient au public. Hein, parce qu'il faut voir un petit peu ce que ça donne. Bon, si l'œuvre Alors, je vais encore redonner un autre exemple. L'exemple que je voudrais donner, c'est que si vous regardez l'histoire de la conservation de ce qui a été écrit par les romancières, les poétesses, les philosophes, enfin tout ce qui est féminin, tout ce qu'elles ont écrit dans tous les pays, vous pourrez constater que c'est pas seulement la postérité qui ne recueille pas tout, parce que ça c'est normal, mais c'est aussi on considérait que c'était rien du tout d'aller détruire ce qu'écrivait une poétesse, que il y avait quelque chose qui était volontaire, c'est-à-dire que la postérité, le public de la postérité qui va conserver ou ne pas conserver une œuvre, il faut quand même dire qu'il est biaisé, que c'est pas qui va pas faire donc cette appropriation des survivants par rapport à quelqu'un qui est mort, elle est jamais neutre. Voilà, c'est ce que je veux dire. Elle n'est jamais neutre. J'ai pris l'exemple des femmes, mais je pourrais prendre l'exemple de populations dominées. Et c'est pareil, comme par hasard, il ne va pas rester grand-chose de leur création. Donc la postérité, il faut voir comment elle est faite.
Alors justement, à partir du moment où un auteur est apprécié, est connu, est reconnu, est-ce que ce qu'il écrit lui appartient encore ? Ou est-ce que cela fait partie, je vais utiliser un terme excessif, du patrimoine de l'humanité ?
Je pense que l'œuvre lui appartient.
Même après sa mort ?
Même après sa mort. Je vous dis, parce que la postérité n'est pas neutre. Parce que c'est ça le problème. Si la postérité était neutre, c'est-à-dire que si réellement on disait le temps qui détruit tout, garde ce qui est éternel, etc., etc., ça c'est l'idéal, je veux dire, ça c'est l'idéal de l'humanité. Donc si on regarde l'idéal, effectivement, vous avez raison, l'œuvre appartient au patrimoine de l'humanité. Mais c'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est que la postérité, c'est les gens qui ont du pouvoir. Voilà, et que ça va être biaisé, et que on va conserver. Finalement, on a eu des chances. Par exemple, si vous regardez le cas de François Villon, mais on a eu une chance extraordinaire de pouvoir encore lire François Villon, parce que François Villon a été pendu, parce qu'il était rejeté un peu partout, et on a une chance extraordinaire de pouvoir encore le lire. Mais il y a peut-être eu plein de François Villon qui ont été totalement détruits par la postérité, parce que c'était un mauvais garçon, parce que cela, parce que... Voilà. La postérité n'est pas neutre. L'humanité, c'est l'humanité abstraite qui va garder comme un patrimoine ce qui est vraiment précieux, eh bien, c'est un idéal. Donc ce que vous dites, à la limite, ce que vous dites idéalement, ce serait vrai, mais dans les faits, c'est faux.
Je ne dis rien, je me pose la question, justement. Je me pose des questions. Alors, pour en finir, Elisabeth, ce Dimitri Nabokov, qu'est-ce que vous feriez à sa place ?
Ah, sur Nabokov en particulier.
Sur le cas que j'ai cité, donc, de Dimitri Nabokov, qui est en plein questionnement par rapport à l'autorité, surtout à la demande, de brûler ce texte qui n'est pas terminé, ou de le faire connaître parce qu'il voit en ce texte une vraie révélation de l'œuvre. Que feriez-vous ?
D'abord, j'ai l'impression que ce que j'ai comme impression par rapport à ce que je connais de l'œuvre de Nabokov, c'est qu'apparemment, il n'avait pas des positions... moi, je trouve qu'il n'avait pas des positions vraiment malarméennes sur l'œuvre d'art. Mais il était assez autoritaire et il aimait... Je crois que lui, il considérait qu'il était propriétaire de son œuvre.
Alors, une fois de plus, là, ce que vous faites, Elisabeth, vous intellectualisez ce que pensait Nabokov. Mais il a demandé, sans penser à son écriture et à ce qu'on peut retrouver dans ses textes. Hein.
Attendez, allô ?
Oui, vous êtes
oui.
Là ? Vous m'entendez toujours ou pas ?
Oui, je vous entends.
Oui, sans penser à ce qu'il écrivait dans ses textes et à son mode de pensée. Nabokov a demandé à ce que ce texte soit brûlé. Il n'est pas brûlé. Il n'a pas encore disparu. Donc, faisons comme si on ne connaissait pas son œuvre. On ne connaissait pas, je veux dire, ce qu'il pensait de la survie ou pas d'une œuvre d'art, etc., etc., et de la perfection. Il demande à ce qu'on brûle son œuvre. Est-ce qu'il en a le droit ?
Je pense que oui.
Très bien.
Enfin, si vous voulez, je vous dis, c'est nuancé, puisque...
Oui,
puisque,
je comprends.
Pour moi, enfin, c'est une question de lecture de l'œuvre, et de voir si, compte tenu des positions esthétiques de l'auteur, qui quand même ressortent à la lecture de l'œuvre, on peut quand même trancher... mais c'est vrai que je suis assez radicale au niveau de la propriété de l'œuvre, et au niveau de... Parce que j'ai tellement d'expérience qu'on fasse dire à des gens ce qu'ils n'ont pas dit, ne serait-ce que je regrette, mais je peux même reprendre le célèbre évangile, hein, l'évangile qui est la loi d'amour, mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait au nom de l'évangile qui demandait l'amour à tout le monde, quoi, enfin. Alors déjà, on fait dire à des auteurs qu'on connaît et que tout le monde a lu clairement, et des textes qui sont vraiment clairs, on leur fait dire le contraire de ce qu'ils ont dit. Alors si en plus on considère que l'auteur n'est pas propriétaire de ce qu'il écrit, s'il n'est pas auteur de ce qu'il écrit, alors là, mais c'est la porte ouverte à tout ce qu'on veut.
Elisabeth,
c'est rien contre tout ce qu'on veut, mais enfin il faut savoir ce qu'on veut.
Elisabeth, je vais devoir conclure. Je vous remercie beaucoup d'être intervenue.
Voilà.
Je vous conseille, si vous ne l'avez pas lu, le livre de Paul Auster.
Mais je vais me précipiter.
Allez le lire, il est passionnant, et c'est vraiment un questionnement de l'auteur de Paul Auster sur justement à savoir si son texte lui appartient, si l'œuvre appartient à quelqu'un. C'est le livre des illusions, et je ne peux que vous le conseiller. Merci à vous, Elisabeth.
Voilà, merci, au revoir.
Au revoir. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2. On va terminer en musique. J'ai choisi de vous diffuser une chanson de Bruce Springsteen qui s'appelle Highway Patrolman. Et je vais même vous raconter l'histoire de cette chanson parce qu'elle est quand même passionnante. Highway Patrolman, on en a fait un film qui s'appelle The Indian Runner. Puisque je suis dans les conseils aujourd'hui avec le livre des illusions, je peux aussi que vous conseiller de regarder Indian Runner. l'histoire de ce film. Quand il avait 20 ans, la fiancée de Sean Penn n'était autre que Pamela Springsteen. Un soir qu'il écoutait Nebraska, l'album de Bruce Springsteen, dans l'appartement qu'il partageait avec elle à New York, il fut subjugué et Pamela appela son père au téléphone, son frère au téléphone. Sean Penn demanda l'autorisation à Bruce Springsteen de tirer un scénario de sa chanson et la réponse fut évasivement oui. Quand il reprit le projet en 91, Pamela Springsteen était sortie de sa vie depuis longtemps. Ses réalisateurs cultes John Cassavetes et Al Ashby étaient morts. Étant mort, il décida de diriger le film et se mit lui-même à l'écriture du scénario. Il y pensait depuis si longtemps que les choses semblaient claires dans sa tête. Le sujet du film, The Indian Runner, comme celui de la chanson Nebraska, est la relation entre deux frères aux antipodes, un garçon soucieux de sa famille et raisonnable, opposé à un frère caractériel et alcoolique, ancien vétéran du Vietnam. Sean Penn a confié être plus concerné par la relation entre frères que ceux entre parents et enfants. Encore une précision sur la chanson. Pour jouer un des deux frères, Sean Penn avait pensé à son propre frère Chris Penn, avec qui il avait partagé l'affiche de Comme un chien enragé, mais ce dernier, qui était déjà sujet à des problèmes de toxicomanie, déclina l'offre. Il y a encore plein de choses sur ce film, l'histoire de ce film passionnant. Alors, qu'est-ce que je vais vous diffuser, Highway Patrolman, ou est-ce que je vais vous diffuser Nebraska? C'est une excellente question. On va aller vers Nebraska.
Saw her standing on her front lawn, just a twirling her baton. Me and her went for a ride in ten innocent people down from the town of Lincoln, Nebraska, with a sawed-off 410 on my lap, through the badlands of Wyoming, I killed everything in my path. Can't say that I'm sorry for the things that we've done, at least for a little while, sir. Me and her, we had us some fun. Now the jury brought in guilty verdict, and the judge sentenced me to death. Midnight in prison storeroom, leather straps across my chest. Sheriff, when the man pulls that switch and snaps my poor head back, you make sure my pretty baby sitting right there on my lap. They declared me unfit to live,
said into that great void my soul be heard. He wanted to know why I did what I did. Sir, I guess it's just a meanness in this world.